Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est samedi après-midi, c'est l'Intégral Sport, les directs sur RMC, vous en avez l'habitude. Il y aura au programme cet après-midi évidemment un petit peu de foot. Tout à l'heure à partir de 15h, la Ligue 2 et ce choc entre Saint-Etienne et Metz. Un peu plus tard évidemment dans la soirée, le grand rendez-vous de la Ligue 1 avec ce match entre Lens et Monaco. Il y aura également un match de Ligue 1 un peu plus tôt dans l'après-midi. On ira également à La Rochelle tout à l'heure, à Marseille de Flandre pour ce match de top 14 qui ouvre la 23e journée et qui va opposer le Stade Rochelet à Clermont, sans oublier évidemment les finales de Coupe de France de basket. On va en parler dans un instant, avec notamment la finale dames dans un instant qui va débuter entre Basketland et l'ASVEL. Tout ça sans oublier notre magazine olympique en route pour Paris 2024. Dans un instant, on sera avec l'une des membres éminentes de la team RMC, Roman Dico, médaillé d'or olympique par équipe en judo et médaillé de bronze à les champions du monde. Elle a tout gagné, Roman Dico, et on va un peu mieux la découvrir dans quelques instants. Voilà le programme, il est 14h06, on va tout de suite partir pour le basket, retrouver Arnaud Valadon qui va passer une belle après-midi. Il va pouvoir se régaler, deux finales pour le prix d'une, une finale de Coupe de France féminine puis masculine. Salut Arnaud.
Salut Christophe, salut à tous. Tu pourrais même dire quatre finales, puisqu'en fait, c'est un grand week-end, le grand week-end du basket français, puisque tu as également des finales amateurs. Et on a eu les jeunes tout à l'heure, les U18 chez les filles, avec une victoire de Bourges, et notamment la fille d'une ancienne internationale, ça doit te parler, Isabelle Fijalkowski. Eh bien, sa fille qui a fait un véritable chantier. Puis on a eu également une finale U17 masculin, avec la victoire de Rohan sur Cholet. Donc c'est vraiment la fête du basket fédéral français, ce vendredi et ce samedi à Bercy.
Très bien, t'as dormi là-bas hier soir du coup?
Non, quand même pas. Même pas.
Alors, on va commencer. Il y a donc les finales du championnat, pas du championnat, les pros, mais les pros en tous les cas, avec dans un instant Basketland qui va affronter l'ASVEL. L'ASVEL qui évidemment est en passe de réaliser un triplé historique. Mais d'abord, il va falloir passer sur le corps des Landaises qui ne vont pas se laisser faire, hein, Arnaud, cet après-midi.
Et surtout qu'il y a trois jours, il y a déjà eu en championnat un ASVEL Basketland. Et qui a gagné? Eh bien, ce sont les Landaises, avec un panier notamment quasiment au buzzer de Marie-Ève Paget. Donc finalement l'avantage est peut-être plus pour Basketland face au leader du championnat l'ASVEL. Mais c'est vrai quand même, t'as raison, cette équipe de Lyon a remporté la deuxième compétition européenne, l'Eurocoupe, a dans au sein de son effectif quand même une grande majorité des joueuses de l'équipe de France, Marine Johannes, Sandrine Gruda, Gabi Williams, Alexia Chartereau. Ça, ce sont des médaillés de bronze au JO de Tokyo il y a 18 mois. Mais Basketland est l'équipe tenante du titre de cette Coupe de France après un final incroyable il y a 2 ans et cette victoire après prolongation au pluriel contre Bourges. Et même si du côté du Rhône on est monté en nombre, ça fait quand même du bruit, les Landais qui montent à Paris, qui montent à la capitale. Donc on va avoir une très belle ambiance pour cette finale qui démarre dans 6 minutes.
C'est un peu la même ambiance que lorsque l'élan béarnais montait à Paris. C'est un peu le même esprit,
ça,
non ouais.
Hein, la banda, tout ouais, ça, ouais, voilà, les ça. Chants. Ils sont juste dernièrement, on est derrière un panier, et ils ont rempli tout un virage de Bercy avec les couleurs de Basketland, bleu et blanche. Un petit peu l'aviron bayonnais, si tu veux faire un petit parallèle avec le rugby. Ça fait beaucoup de bruit déjà, c'est la fête. Il y a des TGV à fretter, des cars qui montent. Donc voilà, c'est toujours la grande fête. Déjà l'année dernière, il y avait une ambiance de folie avec le scénario du match. Mais là, ils vont continuer, les Montois et les Landais.
Alors tu parlais des stars du côté de l'ASVEL, mais la plus grande star sur le parquet dans un instant, elle joue pas à l'ASVEL. Elle joue à Basketland. C'est une des légendes, sinon la légende du basket féminin français quand même. Céline Dumerc.
C'est l'icône tout simplement. Et tu ne peux pas mieux tomber. Elle vient d'être appelée par le speaker et de fouler la pelouse du parquet de Bercy à 40 ans. Elle est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire du championnat de France. Alors quand on lui demande une réaction sur ça, elle dit en même temps, je joue depuis 40 saisons avec le sourire, parce qu'effectivement elle a une longévité à toute épreuve. Plusieurs fois elle a voulu prendre sa retraite, à chaque fois elle est revenue parce qu'elle prend vraiment du plaisir dans une région. En plus elle est du sud, du sud-ouest, Céline Dumerc, donc elle est vraiment dans ses racines. Elle qui a eu une carrière jusqu'au fin fond de la Russie, à Yekaterinbourg, dans les plus grands clubs, à Bourges évidemment. Donc voilà, elle colle vraiment à cette identité de Basketland et elle a envie de continuer. Voilà, quand le corps suit, alors évidemment elle n'a pas les mêmes responsabilités que ces dernières années, elle joue moins, mais elle est toujours présente et puis elle incarne une véritable âme. Puis on n'oublie pas qu'elle cumule, c'est une cumularde, Céline Dumerc. Guibert parce qu'elle est toujours joueuse avec Basketland, mais elle est aussi manager générale de l'équipe de France féminine. Là, elle ne joue pas. Elle avait déjà pris sa retraite internationale, mais elle fait partie du staff. Donc voilà, elle a déjà préparé sa reconversion, même si elle est toujours une joueuse de basket au fond d'elle.
Parfait, Arnaud. Ben, on te retrouve tout à l'heure. Donc, coup d'envoi de la partie dans 5 minutes. Et puis, il y aura également la finale de la Coupe de France masculine avec les deux géants du basket français actuel que sont l'AS Monaco et l'ASVEL. Ce sera un peu plus tard dans l'après-midi. 14h11 sur RMC. Tout de suite, nous partons sur la route de Paris 2024.
En route pour Paris 2024.
Avec la team RMC.
Comme tous les samedis dans l'Intégral Sport, votre rendez-vous avec l'actualité olympique. Nous sommes à 462 jours, je les ai comptés, de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Et à 494 jours, maintenant il faut que je compte deux fois, parce qu'il y a aussi les Jeux Paralympiques, dont on a fêté cette semaine le J-500, Jeux Paralympiques qui auront lieu dans la foulée. On en a donc beaucoup parlé cette semaine. Aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines, nous poursuivons notre présentation des athlètes qui ont choisi de faire un bout de route avec RMC jusqu'au jeu. La team RMC, il y a de grands personnalité, de grands champions, après Pascal Martineau-Lagarde, après Johan Ndoye-Brouard, après Khalil Chabouni, Mathilde Gros et Rémi Boulet qu'on a découvert la semaine dernière. La dernière représentante de la team RMC sera avec nous dans un instant. Une athlète qui, malgré ses seulement 23 printemps, est déjà une immense championne, sacrée à Tokyo d'un titre olympique par équipe et d'une médaille de bronze en individuel. Vous ajoutez à cela un titre de championne du monde et trois championnes d'Europe et vous découvrez la judokate Romane Dicot qui sera donc avec nous dans un instant. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous allez découvrir une jeune femme passionnante et toujours avec la banane. Dans ce magazine olympique, nous partirons également à la découverte de l'équipe de France d'équitation qui dispute ce week-end à Fontainebleau le printemps des sports équestres. Et avec Léna Marjac, on va faire un peu mieux connaissance avec les différentes disciplines et leurs athlètes. Des jeux qui, pour la première fois de leur histoire, seront entrouverts à la population avec le marathon pour tous. Et ça, c'est Pierre Thébné qui nous en parlera tout à l'heure. Salut Pierre.
Salut Christophe, salut à tous.
Avec les différentes informations et donc le marathon pour tous qui se déroulera de nuit.
Exactement.
Incroyable.
C'est l'info de la semaine. À la torche, 21h, le départ pour le marathon de nuit. On va entendre là-dessus un reportage de Maria Azé. On parlera également d'Anastasia Kirpichnikova, une nageuse russe naturalisée française qui rejoint l'équipe de France. Et puis on vous donnera aussi des nouvelles de Rémi Boulet qui était là la semaine dernière et kayakiste de notre Dream Team RMC.
Voilà, beau programme. Tout de suite, on accueille dans En route pour Paris 2024 une immense championne qui nous a fait rêver à Tokyo en 2021. Cette immense championne, c'est Romane Dicot que je salue et que je suis ravi de retrouver. Bonjour Romane. Est-ce qu'elle est là, Romane? Elle nous entend, oui, ça y est, on l'a récupérée.
Oui,
bonjour
Romane. Je suis là.
Bon, comment ça va, bonjour. Romane?
Très bien, et vous?
Eh ben ouais, pas mal, hein, on se rapproche, ça se rapproche, les Jeux Olympiques. Bon, toi, les Jeux, évidemment, tu connais, tu as une grande expérience, elle a 23 balais, mais elle a déjà connu toutes les compétitions, notamment à Tokyo, avec une médaille d'or et une médaille de bronze. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui vont être impressionnés, mais toi, quand tu vas découvrir les Jeux de Paris, tu seras même pas impressionné, t'as déjà connu ça.
Exactement, j'ai eu la chance déjà de faire une belle performance à Tokyo. Mais là, il y aura du public. À Tokyo, ça nous a manqué. Et j'ai vraiment à cœur de faire une belle performance dans ma famille et les Français.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'à Tokyo, le public et les supporters n'étaient pas là. Ça devait quand même être une drôle d'atmosphère. Hein. Et quand on dispute ses premiers Jeux dans une ambiance comme ça, un peu tristounette, c'est moins drôle. D'un autre côté, tu as pu te concentrer à bloc sur la compétition.
Exactement, j'avais pas de distraction. On ne peut pas sortir du village, c'est un peu compliqué. Mais c'était quand même une chance de pouvoir représenter la France en faisant du judo et de ramener de belles médailles.
Exactement, une médaille d'or, une médaille de bronze ramenée par Romane. Et puis derrière, ça s'est poursuivi avec ce titre de championne du monde l'année dernière. Il y a trois titres de championne d'Europe. Tu es aujourd'hui la numéro un mondiale. Hein, ça, c'est pas rien. Donc, a priori, les Jeux, tu les aborderas en position de favori. C'était pas encore tout à fait le cas à Tokyo, même si évidemment tout le monde parlait beaucoup de toi. Mais là, tu auras une énorme pancarte dans le dos, Romane. Hein. Tu seras la femme à abattre.
C'est vrai que déjà l'année dernière au championnat du monde, j'ai senti la différence avec une médaille olympique dans mon sac à dos. Et là, je sais qu'à Paris, je fais partie des favoris dans ma catégorie de poids. Mais je suis prête à porter ce poids, ça fait plaisir. Et je me dis que j'ai montré à tout le monde qu'être favorite et gagner, c'est possible.
Voilà, c'est souvent plus dur finalement d'être favori parce que tu es très attendu. Tu auras beaucoup de pression ce jour-là. Même si la pression, tu la partageras un peu avec Teddy parce que normalement, vous allez combattre le même jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut mieux lui laisser la pression à lui. Il a l'habitude en plus, Pépère. Hein.
Exactement. En plus, il donne toujours de bons conseils le jour J. Donc, j'aime vraiment beaucoup combattre avec Teddy.
Ah oui, alors raconte-nous justement comment ça se passe quand vous êtes en compétition tous les deux. Je sais qu'il t'apprécie beaucoup. Il dit, Roman, c'est la petite sœur. C'est même pas l'avenir, c'est le présent aujourd'hui du judo. Il t'aime beaucoup. Et c'est vrai que le fait de concourir les mêmes jours en compétition fait que vous avez une relation privilégiée tous les deux.
Oui, forcément. Et pour moi, c'est vraiment un atout parce que tout ce que Teddy a vécu, pour moi, c'est du plus. Quand je me rappelle à Tokyo, quand je perds ma demi-finale, c'était dur d'accuser le coup. Et je suis partie voir Teddy, il est venu me voir, il m'a dit, Roman, c'est pas grave, t'as une médaille de bronze à aller chercher. Et tu iras prendre l'or à Paris, y a pas de souci, mais reprends-toi, ressaisis-toi et ça ira, quoi. Donc, forcément, d'avoir Teddy qui combat le même jour que moi, c'est vraiment un atout et il est toujours de bons conseils.
Ouais. Tu penses que ça ferait un bon entraîneur quand il aura fini sa carrière? On sait pas, vers 2050, 2060, quand il en aura marre de combattre.
Why not? En tout cas, il sera très pédagogue et un entraîneur hyper cool. Et ça compte.
Ouais, et voilà. Ah, il faut être un peu cool de temps en temps. Même si tous les entraîneurs ne sont pas des gens cool, hein, Roman. Hein. De temps en temps, les entraîneurs de judo, et ils savent vous bouger quand même. Hein.
Il faut, c'est le haut niveau, c'est très très dur. On peut pas sourire tout le temps, mais de temps en temps, une petite blague, ça fait quand même du bien quand on souffre à l'entraînement.
Une petite blague de temps en temps, et ensuite on se fait bouger. Roman, tous les auditeurs te connaissent évidemment. Tu as été médaillé d'or à Tokyo, mais on va essayer pour ceux qui ne connaissent pas encore l'immense championne que tu es, de découvrir un peu mieux ta personnalité, ton parcours aussi, parce que le judo, toi tu y es venu assez tard. Raconte-nous un peu comment tu as découvert cette discipline. Je crois que c'est en regardant une autre grande championne combattre et devenir une championne du monde, je crois.
Exactement. Moi, j'ai commencé en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et ça a commencé avec les Jeux Olympiques de Londres. Et il y avait Audrey Tchoméo, du coup, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute, qui a fait 3e aux Jeux. Et du coup, mon père, en fait, il a fait un peu un parallèle avec moi. Et il m'a dit, Roman, va faire du judo. À l'époque, j'avais 13 ans. J'ai dit, papa, si tu veux, je vais faire du judo.
Bonne
et c'est
fille,
parti comme ça. Un peu comme une blague devant la télé. Voilà. J'écoute toujours mon père, moi.
mais tu faisais du sport déjà à l'époque? Tu faisais tu pratiquais d'autres disciplines ou alors?
De la natation.
Tu faisais de la natation, d'accord.
Ouais, natation. J'ai commencé, je pense, comme tout le monde, pour apprendre à nager. J'ai adoré, donc j'ai continué. Après, le judo est venu. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché avec le judo. Je pense que c'est le fait d'avoir un sport d'opposition, un sport avec une affrontation directe, en fait. Une affrontation directe avec son adversaire. Et j'ai adoré. J'étais aussi très, très bonne, malgré mon niveau très, très, très débutant. Et ouais. Mon entraîneur a cru en moi, il m'a dit, Roman, je veux t'accompagner. J'ai dit, ok, let's go, c'est parti. Et depuis, ça s'est jamais arrêté.
Ouais, c'est marrant parce que tu as un peu le même parcours que Mathilde Gros, qui fait aussi partie de la team RMC Olympique. Qui est partie d'une autre discipline, qui a découvert le cyclisme assez tard et qui tout de suite a été un phénomène. Parce que toi, 4 ans après avoir enfilé ton premier judogi, tu es devenue championne de France. Tu avais, je crois, 17 balais et t'étais même pas encore ceinture noire. T'étais pas ceinture orange quand même.
C'est vrai que ça allait très vite. Non, j'étais ceinture marron quand même,
ah ouais,
c'était
quand
moi.
Même.
Non, mais c'est vrai que c'est marrant qu'il faut parler de Mathilde parce qu'on se suit beaucoup dans nos palmarès.
Ouais.
Et d'ailleurs, on est copines et on a gagné les Europes la même année en 2018 pour la première fois. On a gagné les Mondes la même année en 2022. Et on s'est dit, on gagnerait les Jeux en même temps à Paris. Voilà.
Ah ben voilà, et ça c'est génial. C'est une bonne émulation entre championnes de différentes disciplines. Mais c'est vrai que vous êtes les Golden Girls, les jeunes grandes athlètes de l'équipe de France. Et on compte sur vous les filles pour nous ramener de très belles médailles lors de ces Jeux. Roman, super championne, mais également une tête bien faite puisque tu suis des études supérieures à la Sorbonne en licence de mathématiques, s'il vous plaît. Est-ce que ça aide les maths pour résoudre les problèmes posés par tes adversaires? Est-ce que tu peux résoudre les problèmes par des équations, par exemple?
J'essaye, en tout cas, j'essaye. Non, c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir un cursus scolaire. Et surtout, ça me permet aussi de m'évader un peu. Ça paraît un peu bizarre, mais de faire tout le temps du sport, du judo, ça prend la tête. Et des fois, de me dire, je me pose un peu dans les cours, ça fait du bien aussi.
Ouais. Comment tu organises ton temps? Parce que une licence de mathématiques, ça prend du temps. Il faut passer les examens. Et en même temps, je crois que t'as combien d'entraînements par jour en ce moment en judo?
2 entraînements par jour.
2 entraînements par jour. T'arrives à aller sur les bancs de la fac ou alors t'as un truc un peu aménagé, des horaires aménagés et une licence que tu pourrais passer en un peu plus de temps que les autres?
C'est exactement ça. J'ai la chance avec Sorbonne Université de pouvoir étaler mes années. Donc au lieu de faire ma licence en 3 ans. Je l'ai fait
On t'a perdu là, on t'entend plus. On t'entend plus, Roman.
Ah,
non.
Vous m'entendez plus?
Ah ouais, on t'entend un peu moins.
Je suis toujours là.
Voilà, il faut que tu te rapproches un peu du micro, je pense, qui doit être un peu éloigné. On va essayer.
C'est bon, on m'a retrouvé.
Ouais, super, super, ça y est, on t'a récupéré.
Ok, parfait. Donc oui, je disais que j'étale ma licence en fait. Donc le fait de la faire en plusieurs années, ça me permet de pouvoir m'entraîner normalement et de pouvoir passer mes examens sans pression en fait. Donc par semestre, je passe entre 2 et 3 matières quand j'ai un peu plus de temps pour pas avoir de pression et pouvoir faire ma licence correctement.
Ouais. Tu vis à l'INSEP, Roman?
Plus maintenant.
Plus maintenant.
J'ai vécu à l'INSEP pendant 4 ans.
Ouais.
Maintenant, j'ai mon appartement juste à côté, donc pour pouvoir faire les allers-retours entre la fac et l'INSEP.
D'accord. Et le soir, après les entraînements, un peu de maths, comme ça, ça fait du bien, ça aide à dormir?
Un peu de maths, exactement, un peu de maths. Quand j'ai le temps, je couds aussi un petit peu et
ah ouais.
Une bonne journée.
Oh là, tu m'étonnes. C'est une journée. Il faudrait 26 ou 27 heures pour une Roman Nico. Hein.
Autrement, exactement.
Roman, je le disais, numéro 1 mondial. Tu as tout gagné après les Jeux avec ce titre mondial. Tu es resté sur une période incroyable, je crois, avec 18 victoires d'affilée. Et puis, il y a eu quelques petits accros depuis le début de l'année. Il y a quelques semaines, à Antalya, en Grand Slam, tu as été médaillé de bronze, mais tu as été battu en quart de finale par une Turque. Enfin, une Turque, elle était d'origine française, non? C'est ça, Keira Saïd?
Exactement, exactement.
Ouais. Et elle a décidé un jour de quitter la Fédération Française de Judo pour aller en Turquie. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton adversaire numéro une pour le titre et pour tous les titres qui vont se présenter?
J'ai une catégorie de poids très, très dense. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de concurrence. Kaïd Saïra est vraiment une des filles potentielles qui peut gagner les mondes et les Jeux Olympiques, pardon. Mais il y a beaucoup, beaucoup de filles fortes. C'est pas la seule, mais forcément, c'est une adversaire redoutable. Ça fait 2 fois du coup que je pars sur elle, mais j'avais déjà battu avant. Je sais que chaque match contre elle va être compliqué. Mais les réglages sont faits et vous inquiétez pas qu'au monde, je serai meilleur.
Ah ouais, on sent que la revanche, elle a envie de la prendre, Roman. Oui, parce que les mondiaux arrivent dans très peu de temps, c'est au mois de mai, je crois. Évidemment,
ça, dans 3 semaines.
Dans 3 semaines. Donc là, tu es en pleine préparation pour ces mondiaux. Comment se passe la préparation?
Bah, très bien, très bien. Là, on rentre de stage de ce week-end. On est à Templu-sur-Lot pour faire la préparation finale. Donc là, on reprend l'entraînement lundi à l'INSEP pour 10 jours. Et ensuite, on s'envole tard.
Ouais, d'accord. Pour ces championnats du monde, donc tu vas défendre ton titre là. Hein, donc ça rigole plus là.
Hein. Non, je vais rechercher un autre titre. C'est différent.
Pardon. Ouais, c'est mieux. Ah, c'est un autre état d'esprit. Tu as raison de le dire comme ça. C'est vachement plus sympa.
Exactement. J'ai rien à perdre, tout à gagner.
Bon, Roman, au niveau kimono judogi, il y a pas de souci pour toi. Tu combattras bien avec celui de l'équipementier de la Fédé parce qu'il y a eu ces petites histoires avec Clarisse. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous. J'imagine que c'est difficile de prendre position pour l'un ou pour l'autre. D'un côté, la Fédé qui est ton employeur et qui te permet de t'entraîner. Et puis Clarisse, qui est quand même une grande dame du judo français. Ça a dû être un peu difficile à vivre ce moment de tension, non?
Bah, ça ne nous concernait pas trop et je pense que c'est bien que ça reste entre la fédération et Clarisse. Aujourd'hui, tout est réglé, donc tant mieux. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir.
Ouais. Donc voilà, c'est un souci qui est derrière la Fédération Française de Judo, derrière Clarisse, et maintenant évidemment concentration pour aller chercher des médailles d'or, notamment donc dans ces championnats du monde qui débutent dans quelques jours, dans 3 semaines. Roman Dico qui va donc essayer d'en décrocher un deuxième avant de s'attaquer aux Jeux Olympiques. L'année prochaine, ce sera une année très particulière, préparation olympique. Le fait de disputer les Jeux à Paris, en France, c'est un vrai plus ou c'est au contraire quelque chose qui peut inquiéter les athlètes qui vont avoir la pression finalement et des médias et du public et de la famille qui seront présents?
Je pense que c'est un peu les deux, mais moi je trouve ça comme quelque chose de hyper positif, vraiment du bonus, parce que mes proches seront là, les Français seront là pour nous soutenir, et je pense que c'est vraiment une chance dans une carrière de haut niveau d'avoir l'occasion de pouvoir combattre aux Jeux Olympiques dans notre pays à domicile. Je pense qu'on a tous des souvenirs de compétitions à domicile, que ce soit le tournoi de Paris par exemple pour les judokas, et on sait très bien que c'est différent, il y a une émulation différente, on est porté différemment, et je me dis que les Jeux Olympiques ça va être fois 50 000, donc j'ai hâte. Et je prends vraiment ça comme un bonus.
Ouais. Les compètes de judo qui n'auront pas lieu à Bercy. Bercy, tu connais évidemment tous les recoins. Mais ce sera sur le Champ de Mars, en plein cœur de la capitale. C'est un bel endroit pour une belle compétition. Quand même là, vous serez au cœur, sous la Tour Eiffel. Quoi. Magnifique.
Honnêtement, c'est magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir y aller plusieurs fois déjà. Et je me projette, j'ai hâte. Et ça peut être une très très belle compétition pour les Français en tout cas.
Eh ben, on espère, hein, parce qu'on compte sur les judokas pour nous ramener des médailles, hein, pour avoir un nombre de médailles souhaitées par le président de la République. Il va falloir que vous performiez, comme vous l'avez fait les filles, notamment à Tokyo. Et il n'y a pas que les filles, les garçons aussi, évidemment, ont performé. Romane, on va te souhaiter de bons championnats du monde. Tu viendras, évidemment, nous donner des nouvelles de ta préparation tout au long de ces 15 mois qui nous séparent des Jeux Olympiques. Et évidemment, on va pousser très fort derrière toi, même si t'as pas besoin de nous, t'as besoin de personne. T'as besoin que de toi. Merci, Romane.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, Romane Dicot, donc notre championne olympique de judo, championne du monde, championne d'Europe, et qui va donc tenter d'aller chercher d'autres titres dans les jours qui viennent, et notamment ce titre de championne du monde. On va maintenant s'intéresser à l'équitation, puisque vous le savez peut-être, les meilleurs cavaliers de dressage et sauts d'obstacles se retrouvent tout au long du week-end au Grand Parquet de Fontainebleau pour deux concours prestigieux, et c'est le moment pour le staff fédéral, à un an et demi des Jeux de Paris, de faire une revue d'effectifs. Léna Marja qui était cette semaine. On l'écoute.
Quelques minutes avant son passage sur la piste de dressage, Morgane Barbançon reçoit les dernières consignes du sélectionneur de l'équipe de France, Jean Morel.
Vraiment un peu long pour tourner. D'accord. Allez. Pense à ça et à tes épaules.
Avec son cheval Habana, elle a 9 minutes pour réaliser un ensemble de figures et de mouvements imposés.
Au passage, j'en suis super contente. Le cheval, il a fait énormément de progrès. Il y a eu plein de petites fautes bêtes, en fait. Mais c'est plus des fautes techniques. Donc je suis très contente et puis c'est des fautes qui vont vite s'effacer.
Puis c'est au tour de Pauline Basquin d'entrer sur la piste avec Sertorius de Rimazed, son cheval de 13 ans.
Je suis un peu déçue parce que je fais deux fautes co-F2, donc ça coûte cher.
Après avoir vu les quatre cavaliers français engagés en dressage, Jean Morel, le sélectionneur, est plus qu'enthousiaste en vue des Jeux Olympiques.
On est sur la bonne voie, ils ont fait énormément de progrès cet hiver. Aujourd'hui, ils font encore des fautes, c'est pas parfait. Petit détail à arranger, mais je veux dire, ces quatre chevaux-là, ils sont en train de monter, et ça, pour nous, ça nous fait plaisir.
Depuis 1988, le dressage français n'a pas remporté de médaille au JO.
Ça va venir, on vise pas la médaille, mais on essaye de passer le deuxième tour, ce qui sera déjà exceptionnel, parce qu'on sera dans les 8 meilleures nations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien. Il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient bien avoir cette place-là. On ne l'a pas encore. Pas de panique. Mais ça va peut-être venir.
Une fois l'épreuve de dressage finie, place au saut d'obstacle sur le grand parquet de Fontainebleau.
Il y a la 7e place qui se joue.
Sous les yeux de Henk Nouren, entraîneur et sélectionneur.
Un peu vers le vertical et après, comme ça, 4 cours.
Passage de Grégory Cotard, le récent vainqueur du Grand Prix de Bordeaux.
Alors, Grégory Cotard et BBC prennent le départ.
Et débrief en sortie de piste avec Henk Nouren.
Ça, c'était pas mérité parce que tu arrivais bien. Hein. Tout était bien, tout le tour était bien, non?
Mais après avoir vu les 32 cavaliers français engagé, le sélectionneur est beaucoup moins satisfait de ses troupes.
L'équipe n'était pas encore vraiment formidable.
Grégory Cotard reconnaît qu'il lui reste encore beaucoup de travail pour espérer faire partie de l'équipe de France de saut d'obstacle lors des Jeux de Paris.
Les Jeux Olympiques sont dans ma tête. Il serait aujourd'hui, je ne me sentirais pas encore suffisamment prêt parce que c'est en France. Il y a un stress supplémentaire, donc je crois que c'est important de prendre le temps de tout bien gérer et qu'on arrive là-bas enfin prêt.
Pour lui, ce serait sa première participation aux Jeux Olympiques.
Reportage de Léna Marjac pour parler d'équitation. D'autres reportages à suivre dans un instant dans notre magazine olympique avec Pierre Thévenet qui va nous donner les dernières nouvelles. Auparavant, on repart à Bercy retrouver Arnaud Valadon puisque la finale de la Coupe de France dames a débuté entre Basketland et l'Asvel. Arnaud.
Oui, depuis 7 minutes, 5-3, autant dire l'adresse n'est pas au rendez-vous. 2-11 pour les Landaises, 1-11 seulement pour les Rodaniennes, 5-3 pour Basketland. Mais effectivement, les cercle réputé assez dur à Bercy, et bien pour l'instant font la loi et ouais, ça donne un faux rythme un petit peu bizarre puisqu'on est qu'à 2 minutes 30 de la fin du premier quart-temps et seulement 5 points marqués par Basketland et 3 points seulement par l'Asvel.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. Il est 14h29 sur RMC, la suite d'En route pour Paris 2024 dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport. Christophe Cessieux.
14h32 sur RMC, l'intégral sport avec nos premiers directs. Le premier direct de l'après-midi concerne le basket, la finale de la Coupe de France, les finales tout au long de ce week-end. Et on est avec les filles cet après-midi qui ont débuté leur finale Basketland opposée à l'Asvel. Arnaud Valadon.
Les 10 dernières secondes de ce premier carton assez étrange. 8 pour Basketland, 3 seulement pour l'Asvel qui n'a marqué qu'un panier dans le jeu. Il reste une seconde et on va en rester là. 8-3, c'est un score franchement assez rare, assez inédit de voir autant, aussi peu de paniers marqués. 2 sur 15 à l'adresse pour Basketland, 1 sur 16 pour l'Asvel. Franchement, j'ai presque pas de mots pour décrire ce premier carton qui finalement tourne à l'avantage de Basketland. 8-3, mais c'est assez étonnant, même toi Christophe qui a une grande mémoire. 8-3 après seulement un carton dans le sport professionnel, dans le basket français. Ça veut dire qu'on partirait sur une base de 33-12.
Ah ouais,
sur
c'est un
40
score de rugby,
minutes.
C'est pas un score de basket.
De handball. De handball, puisqu'on a averti. Voilà, plus 5 pour Basketland après 10 minutes.
Ok, à tout à l'heure Arnaud pour le deuxième carton de cette finale dame. Et puis il y aura la finale homme entre l'Asvel et Monaco. Ce sera un peu plus tard dans l'après-midi. Pierre Thévenet est avec nous pour l'actualité olympique. Pierre, on va tout d'abord s'intéresser à la natation française qui pourra compter aux Jeux Olympiques sur un renfort de choix. Sujet qui pourrait prêter à polémique. Hein.
Oui, ils pourront compter sur un renfort de choix d'Anastasia Kirpichnikova. Je suis sûr que je n'allais pas y arriver. La nageuse russe qui a été naturalisée française. Bon, ils pourront compter sur son renfort si elle se qualifie au jeu, bien sûr. Mais en tout cas, elle va pouvoir concourir sous le drapeau français. Ça fait 4 ans qu'elle s'entraîne avec Philippe Lucas à Martigues et elle était interdite de compétition en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a notamment obtenu 3 médailles d'or au championnat d'Europe en petit bassin en 2021 sur 400, 800 et 1500 mètres nage libre. Et puis sa naturalisation, elle arrive avec un timing qui est parfait puisqu'elle participe tout à l'heure ce soir à l'Open Martinique à Sainte-Anne. Si elle termine dans les deux premières du 10 km, elle sera qualifiée pour les mondiaux à Fukuoka au Japon cet été. Des mondiaux qui seront qualificatifs, eux, pour les Jeux Olympiques.
Des nouvelles d'un membre de notre Dream Team RMC, Rémi Boulet, qui était avec nous la semaine dernière, qui a déjà quasiment son ticket pour les Jeux Paralympiques, Pierre.
Oui, notre kayakiste était sur l'eau ce matin, sur le site olympique de Vers-sur-Marne, où se déroulent les temps d'identification nationale. En clair, tous les athlètes français s'affrontent pour faire le meilleur temps possible et intégrer le groupe France pour préparer les Jeux. Aucun souci pour Rémi Boulet qui a bouclé son 200 mètres sprint en 48 secondes 195. C'est un temps qui est plus rapide que son temps en finale des Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est un temps qui lui avait permis d'aller chercher le bronze. Après sa course, on le sent, il n'a que les Jeux en tête.
Pour moi, c'est une très bonne répétition générale parce que dans ma tête, je m'imagine que je suis déjà aux Jeux de Paris. Et donc dans ma tête, je me dis, là, je suis en finale des Jeux de Paris. Il faut que je produise mon effort et aller faire le résultat qui convient. Donc j'essaie de me mettre beaucoup plus de pression qu'il en faudrait pour m'entraîner à Paris, quoi.
Prochain rendez-vous important pour lui, les championnats du monde à Duisbourg en Allemagne fin août, où les 6 premiers obtiendront leur ticket officiel pour les Jeux.
À plus d'un an des Jeux, la surfeuse Yoann Defay est de son côté déjà assurée de participer aux Jeux. Elle est allée chercher son ticket.
Oui, la Réunionnaise sera sur la vague de Théa Oupo à Tahiti l'été prochain. C'est une vraie chance de médaille française. Elle n'a pourtant participé qu'à une seule compétition en 2023. Elle s'était blessée au pied en décembre dernier. Mais en tant que meilleure européenne et par un jeu de calcul de la Fédération internationale, elle est déjà assurée de finir dans le top 8 mondial à la fin de la saison et donc de participer aux Jeux. Elle a une mission maintenant, c'est faire mieux que les huitièmes de finale où elle s'était arrêté en 2021.
Une nouveauté donc cette année au jeu, on en parlait ce matin dans les grandes gueules du sport, le marathon pour tous qui sera la première épreuve de l'histoire des jeux ouverte au public. L'info de la semaine, c'est que ce marathon va donc se courir de nuit à la Lampe Frontale.
Et oui, ce jeudi, Paris 2024 a annoncé que le départ du marathon pour tous des Jeux Olympiques sera donné à 21h depuis la mairie de Paris. Un départ encore plus tard à 23h30 pour le 10 km. Le but, c'est de réduire l'impact de la température puisque l'épreuve a lieu en plein été le 10 août. Mais un départ à 7h, qu'est-ce que ça change pour les coureurs? Réponse avec Maria Azé.
Robin fera partie des 20 024 coureurs au départ du premier marathon pour tous de l'histoire des Jeux Olympiques. Et ce départ à 21h, ça n'a pas l'air de l'inquiéter.
Au vu de la date, c'est plutôt une très bonne nouvelle, étant donné qu'on va être le 10 août, ce qui risque de faire potentiellement très chaud.
Le parcours sera le même que les Olympiens, mais de nuit donc. 42,195 km en passant devant le Palais Garnier, le Musée du Louvre ou encore le Château de Versailles, avant une arrivée à l'esplanade des Invalides vers 23h30 pour les premiers. Des conditions pas forcément optimales pour le médecin du sport Roger Rua.
On n'est pas dans les meilleurs horaires. Le maximum de la performance d'un athlète se situe en fin d'après-midi, entre 17 et 19 heures environ. Et après, ça devient plus compliqué. Donc, c'est plus difficile de courir la nuit.
Principale inquiétude, les blessures.
Votre vision n'est pas la même qu'en plein jour. Et donc, vous avez moins de sécurité sur la foulée. Et donc, le risque d'entorse, notamment, de chute, augmente assez fortement avec la vision nocturne.
D'où l'importance d'anticiper sa préparation, explique Johan Durand-Marie. marathonien de l'équipe de France.
Prendre un petit déjeuner classique avec un repas et certainement une collation vers 16h pour emmagasiner un maximum d'énergie pour 21h. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans sa préparation pour justement habituer son corps à courir sur cette barrière horaire.
Lui préfère même ce format d'épreuve.
On aura simplement cette sensation de courir un petit peu plus vite parce qu'on a l'impression que les éléments défilent plus vite quand on court de nuit.
Le 10 km partira quant à lui à 23h30. Pour ceux qui n'auraient pas encore leur dossard, Paris 2024 a annoncé qu'il en restait encore 35 000 sur les 48 048 disponibles pour les deux épreuves.
Il reste encore un peu de place, un peu de dossard à aller chercher. L'actualité des Olympiques avec notamment ce coup de gueule, enfin certains opposants à la réforme des retraites qui se dressent contre la tenue des Jeux Olympiques, Pierre.
Oui, via le hashtag pas de retrait, pas de JO qui a fleuri cette semaine sur Twitter. Des manifestants promettent de perturber les Jeux et leur préparation. L'opposition reste assez secrète, discrète pour le moment. Les grands syndicats ne suivent pas le mouvement. Laurent Berger, le président de la CFDT, a d'ailleurs affirmé sa volonté que les Jeux de Paris soient une fête. Mais au gouvernement, on prend quand même la menace au sérieux. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est montrée très claire sur le sujet au micro de Kevin Morand.
En aucun cas, les difficultés que connaît aujourd'hui notre pays ne doivent déteindre sur un événement comme les JO. Il ne peut pas y avoir de menace autour de ça. Et c'est des Jeux qui sont faits pour 15 000 athlètes, qui sont faits pour des millions de gens qui achètent leurs billets pour assister à ce spectacle d'exception. Et vouloir jouer contre les Jeux, c'est jouer contre les associations, c'est jouer contre les athlètes. Je ne crois pas que c'est ce qu'il faut pour notre pays, ni ce que les Français ont envie de voir et de vivre.
Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Le débat de la réintégration des athlètes russes et biélorusses se poursuit de plus belle avec de nouvelles fédérations qui se sont positionnées, Pierre, aujourd'hui, cette semaine.
Oui, vous le savez, on vous en parle chaque semaine. Le Comité international olympique préconise le retour de ces athlètes sous drapeau neutre en examinant les cas de manière individuelle. Les athlètes sont exclus depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février dernier. L'escrime, le taekwondo et le pentathlon moderne ont par exemple donné leur accord. L'athlétisme et l'équitation à l'inverse s'opposent à ce retour. Hier, c'est World Archery, la fédération internationale de tir à l'arc qui annonce lancer un processus de réintégration de ses athlètes sous réserve d'une preuve de neutralité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais la veille, le badminton s'était à l'inverse dit pas convaincu de l'existence d'une justification de ce retour et avait remis en cause le manque de clarté des critères du CIO.
Voilà, il a été complet le Pierre Thévenet aujourd'hui. Il nous a tout dit de l'actualité olympique. Merci Pierre pour toutes ces infos. Évidemment, on retrouvera tout cela la semaine prochaine avec une nouvelle édition d'En route pour Paris 2024. Merci Monsieur Thévenet, 14h40. Un tout petit détour par Bercy avec Arnaud Valadon. Est-ce que l'adresse a progressé là chez les filles à la finale de la Coupe de France?
Allez, on voit un peu plus de points à 7 minutes de la mi-temps. Il y a 12 points d'avance pour Basketland, 17-5. C'est plus du côté de l'Asvel que ça reste problématique. 2 sur 21 pour les Lyonnaises, leaders du championnat.
Merci Arnaud, 14h41 dans un instant. Eh bien, on va vous présenter les matchs qui débutent à 15h. Match de foot avec la Ligue 2 et cette rencontre entre Saint-Etienne et Metz. Et puis le top 14, La Rochelle, le Stade Rochelet qui accueille Clermont. Romain Asselin est à Marcel de Flandre cet après-midi qui va être en furie. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h43 sur RMC, l'Intégral Sport se poursuit, on a des directs et il va y en avoir d'autres qui vont nous rejoindre, notamment à 15h avec du foot et du rugby. On va commencer par le foot, on va aller faire un tour à Geoffroy Guichard, retrouver Edouard G, il est bien là-bas dans son jardin du Chaudron. Bonjour Monsieur G, comment ça va?
Bonjour Monsieur Cessieux, ça va bien, et vous-même?
Pas mal.
Je suis bien entouré aujourd'hui.
Toujours. Ah bon? T'es...
Ah, j'ai 33 000 personnes, on fête aussi... les 10 ans de la Coupe de la Ligue, donc il y a un certain Brandao, le buteur de la finale, qui a fait un tour d'honneur tel une rockstar ici. C'est assez incroyable, cette nostalgie de cette Coupe de la Ligue d'il y a 10 ans. C'est vrai que depuis 81 à Saint-Etienne,
ouais,
c'est que
Saint-Etienne
le titre.
Saint-Etienne vit sur la nostalgie, voilà. Évidemment, mais elle permet encore à tous ses supporters de vibrer pour leur club. C'est ça qui fait les grands clubs, Edouard.
C'est extraordinaire, oui, effectivement. Et puis en plus, là, on va parler de la remontée des Verts depuis bien le 31 janvier, la dernière défaite. 10 matchs sans victoire, mais on en parlait avec quelques-uns proches des Verts. Là, on se disait, mais le 26 décembre, après la défaite à Annecy, avec cette équipe de Saint-Etienne qui était dernière de Ligue 2, nous étions qu'à la 17e journée du championnat. Il n'y avait pas grand monde qui imaginait que les Verts pouvaient se maintenir. Et là, on est à moins d'une dizaine de matchs de la fin, ben les Verts sont presque maintenus. À l'époque, ils avaient 7 points de retard sur le premier relégable. Désormais, ils en ont 11. Donc tout va bien avec notamment cette série depuis 10 matchs. Mais voilà, en face, mon cher Christophe, donc les Verts, eux, sont invaincus depuis 10 matchs, donc depuis le 31 janvier. Ben Metz, lui, est invaincu depuis 18 matchs. Et ça fait donc plus longtemps que ça dure. Et fatalement, ben, le classement s'en ressent. Troisième de Ligue 2, fort aussi de son 3-0 face à Bordeaux la semaine dernière. Et ben, ils ont envie, les Messins, les hommes de la Slo Bologna, ben, de confirmer tout ça pour pourquoi pas aller ne serait-ce que quelques heures avant le Bordeaux-Grenoble de lundi, de shipper la deuxième place à Bordeaux. Il faudrait pour cela au moins faire un match nul et surtout gagner.
Oui, parce qu'on rappelle que cette année, il n'y a que deux places qui permettent de monter en Ligue 1. Et ce sont les deux premiers de ce championnat qui vont donc accéder à la première division. C'est quasiment fait pour le Havre, mais effectivement pour la deuxième place il y a bagarre. Bordeaux est à 56 points, Metz 55 et Sochaux et Bastia peuvent encore espérer, eux qui sont à 52 et 51. Malheureusement, il n'y aura pas Saint-Etienne en Ligue 1 la saison prochaine. Ils resteront sans doute en Ligue 2 en espérant rallier l'élite un peu plus tard. Merci Edouard, on te retrouve dans un petit quart d'heure évidemment.
J'en ai bien peu.
Pour le coup d'envoi de cette rencontre à tout à l'heure, 14h46, Julien Brugnot m'a rejoint dans ce studio. Il est toujours aussi beau, toujours aussi baraqué. Une belle bête. Ça va, mon Julien ?
Salut Christophe, merci beaucoup pour tous ces compliments. Effectivement, toi aussi, tu es un modèle à suivre.
Celui-là, de modèle à suivre. Très bien. Le top 14 avec cette 23e journée, Julien. Alors, on a eu un débat ce matin qui me vaut quelques insultes de la part des supporters toulousains. Parce qu'on a dit, est-ce que les clubs qui sont en demi-finale et qui ont décidé de faire tourner ce week-end, on les comprend forcément parce que la semaine prochaine il y aura les demi-finales et que notamment le match du Stade Toulousain face au Leinster, bah, c'est une montagne qui se dresse face au Stade Toulousain, donc on veut garder ses forces. Mais bon, il y a ce soir quand même un match qui était considéré comme le plus grand match du championnat il y a encore de cela quelques années, et de ne pas voir les stars de l'équipe de France dans cette équipe du Stade Toulousain qui se déplace à Paris, voilà, c'est un peu tristonné, mais enfin malheureusement c'est la formule du championnat
qui sont deux points de vue qui s'opposent, hein, le point de vue du spectateur ou même du diffuseur qui voudrait avoir tout le temps ces stars affichées et alignées sur les matchs, mais malheureusement c'est la réalité, elle est loin d'être là. C'est-à-dire que t'as les internationaux qui ont performé pendant le tournoi des nations, qu'on a usé surtout les joueurs
et dont on sait qu'on les veut en forme évidemment pour la Coupe du Monde.
Exactement. Et il y a autre chose, c'est qu'on ne devrait surtout pas les voir blessés pour la Coupe du Monde, la préparation de la Coupe du Monde. Donc c'est voilà, faut faire confiance au staff toulousain qui a la chance d'avoir des, alors ils appellent ça des jeunes joueurs, mais c'est pas des jeunes joueurs, c'est des joueurs qu'on voit de très souvent en tout cas alignés
notamment
par Hugo Molin
en période de doublon.
Exactement. Donc c'est des joueurs qui ont d'expérience, qui vont certainement, et puis Toulouse l'a démontré à multiples reprises, même avec des équipes remaniées, ils sont capables d'inquiéter n'importe quelle équipe, parce qu'on parle de joueurs qui seraient potentiellement titulaires dans beaucoup d'équipes de top 14. Donc non, effectivement, il y a une équipe de La Rochelle qui a plus ou moins fait tourner déjà le week-end dernier.
On va y aller dans un instant.
Et Toulouse qui fait tourner, qui donne du temps de jeu, qui fait vivre un groupe aussi. Il y a cette vision-là. Donc je pense que Toulouse, pour moi, fait le bon choix et ça leur permettra d'avoir des joueurs en forme au bon moment et certainement pas dans une zone de risque pour des blessures.
Tu vas regarder le Classico ce soir ?
Et bien sûr, je vais regarder. C'est toujours des matchs particuliers.
Oui, c'est des matchs à part. D'ailleurs, je crois que Jean Bouin sera quasiment plein ce soir pour la réception du Stade Toulousain. Marcel de Flandre, ça on pose même pas la question. Il est plein à chaque match et ça dure depuis des années. Le Stade Marcel de Flandre qui s'apprête donc à fêter La Rochelle-Clermont qui débute dans 10 minutes maintenant. Romain Asselin va nous faire vivre la rencontre. Salut Romain.
Salut messieurs.
Bon, ça se passe bien chez Marcel ?
Bah écoute, chez Marcel, atmosphère habituelle, tu le dis, ça fait des années, ouais, ça fait 7 ans. 79e guichet fermé consécutif en top 14. C'est toujours une habitude. Mais là, ils ont quand même changé de calibre, les supporters de La Rochelle. Il y avait eu quand même des défaites au cœur de l'hiver, 3 défaites à la maison en championnat. On les sentait vexés, ils avaient piqué leurs joueurs. Sauf que, comme cette équipe de La Rochelle, ils ont complètement changé de curseur depuis les phases finales de Champions Cup, ce 8e de finale remporté dans la douleur face à Gloucester. Puis les quarts ensuite face aux Saracens où La Rochelle a plutôt été en mode patron. Évidemment, il y a cette demi-finale la semaine prochaine face à Exeter, demi-finale de Champions Cup, qui sera comme à la maison, Christophe, parce que le Matmut, c'est pas loin. Et ils avaient déjà rempli le Matmut avec
les supporters bordelais. Ce sera quand même pas à guichet fermé avec tous les supporters rochelais quand
non,
même.
Il y aura des Anglais, il y aura peut-être même des supporters d'autres clubs français qui viendront soutenir les Maritimes. Mais Au niveau Rochelais, ils seront, selon les derniers comptages, au moins 20, 25 000.
Il y a combien d'habitants à La Rochelle, Romain ?
75.
75, donc ça fait quand même un gros, un tiers de la population. Ah,
c'est un club qui attire toute la région, toute une région autour de lui.
Alors, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres grands clubs de sport professionnel dans la région.
C'est l'intérêt, effectivement, d'avoir.
Et entre Bordeaux et Nantes, si tu te cantonnes au football. Et il y avait 35 000 personnes lors de la parade l'année dernière quand les Rochelais ont rapporté la Champions Cup à la maison.
C'est quand t'as sauté dans le port, hein, ça.
Et c'était marée basse. Et certains avaient quand même piqué une tête dans le port, hein, je te rassure.
Mais ça, il y en a quelques-uns. Des dingos. Alors, on parlait du Stade Toulousain qui fait tourner ce soir pour son déplacement à Paris. Est-ce qu'il en est de même du côté de La Rochelle avant cette demi-finale la semaine prochaine, ou est-ce qu'on a panaché avec les stars du Stade Rochelais et les autres?
On a panaché comme la semaine dernière face à l'Aveyron Bayonnais. Voilà, on ménage un petit peu les cadres, certains, mais sont très peu dans ce cas-là. Hein. On enchaînait les deux matchs, enfin, celui face à Bayonne la semaine dernière et celui face à Clermont. Je pense notamment à Ceutini. Sinon, il y a beaucoup de monde sur le banc des remplaçants côté cadre, avec notamment cet après-midi un Leps Botia, un Grégory Aldrit qui revient de vacances. William Tenou est sur le banc, Tawara Carbarlo également. Lui n'avait pas joué le week-end précédent face à Bayonne, mais oui, ça tourne. Mais quand tu regardes l'identité des Rochelais qui sont sur la pelouse, même ceux qu'on voit assez rarement, ils seraient titulaires dans beaucoup d'équipes de top 14. Ouais. Parce que certes, La Rochelle a 5 points d'avance, certes, il y a une demi-finale la semaine prochaine, mais ils veulent absolument terminer dans les deux.
Ben oui, parce que si Paris réussit ce soir à battre le Stade Toulousain, il faudra quand même se méfier. Ils sont pas si loin que ça, les Parisiens. Hein.
Ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points. Tu peux te dire effectivement que Paris va, c'est ce que les Rochelais se disent, va gagner ce soir. Il reviendrait sur les talons. Donc, il te reste deux réceptions côté Rochelais, celle de Clermont aujourd'hui et celle du Stade Français lors de la 26e et dernière journée de phase régulière, qui pourrait être un petit peu la finale pour la deuxième place, à moins que La Rochelle fasse le boulot avant. Il y aura deux déplacements compliqués à Toulon et Montpellier, mais si tu ramènes un ou deux points de ces voyages-là, peut-être que l'essentiel sera fait avant même de recevoir le Stade Français lors de la 26e journée.
Il va y avoir du suspense à tous les étages pour cette fin de saison, Julien.
Là, c'est quand même potentiellement une chance pour le Stade Français, quand même, parce que pendant qu'il y a cette joute européenne, en tout cas, ils vont pas aller à Toulon, à Montpellier, Montpellier qui est en recherche de points, et Toulon pareil, ça va être compliqué. Donc à tout moment, Paris pourrait finir deuxième à la fin de ce championnat.
Je suis sûr que les Parisiens sont ravis qu'il y ait une demi-finale européenne la semaine prochaine.
Bah effectivement.
Mais bon, il va falloir s'envoyer quand même, parce que les jeunes Toulousains,
après,
c'est pas mal non plus.
Les Rochelais vont faire tourner et à Toulon et à Montpellier. Montpellier, où ils ont jamais gagné. Le club n'a jamais gagné dans son histoire. Ils vont faire tourner. Donc il y aura toutes les forces vives peut-être pour Paris.
Très bien. On te retrouve dans quelques instants. Dans 8 minutes, le coup d'envoi de ce match entre La Rochelle et Clermont. On parlera de Clermont un petit peu plus tard également. Le basket, rapidement, Arnaud, on est entre Basket Landais et l'ASVEL, finale de la Coupe de France féminine.
2 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps, 28 pour les Landaises et 2 fois moins pour l'ASVEL, 14. Toujours une panne d'adresse pour les Lyonnaises, et cet écart déjà de 14 points pour les tenantes du titre, le Basket Land.
Ok, 14h53, tout de suite sur RMC, on revient pour les directs.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieu.
Intégral Sport en plein cœur de l'après-midi, avec 3 directs désormais. La finale de la Coupe de France féminine, c'est la mi-temps. On retrouvera tout à l'heure Arnaud Valadon. Mes deux matchs viennent de débuter, match de top 14 et match de Ligue 2. Le top 14, c'est La Rochelle Clermont, et c'est avec Romain Asselin. Le stade est comble, il fait beau cet après-midi à La Rochelle, et on espère voir un agréable match de rugby, Romain.
En tout cas, pour l'instant, c'est parti fort, hein. Des deux côtés, 4 minutes de jeu, 0-0. On joue pas mal au pied côté clermontois. Et oui, les hommes de Christophe Furios, ils savent que La Rochelle a été pris à domicile quand les adversaires ont davantage joué au pied que les Rochelais. Ils ont une touche à exploiter sur les 40 mètres de La Rochelle. C'est parti avec Jono qui peut lancer le jeu. Anthony Bello qui va servir à plat là en premier attaquant. Son centre Moala avec un ballon disponible au sol pour Jono, avec ce ballon qui a été échappé, me semble-t-il, et la mêlée qui sera à l'avantage de La Rochelle sur ses propres 40 mètres. 0-0 pour l'instant après 4 minutes de jeu.
Ouais, c'est vrai, curieux, là, tu l'as très bien identifié. Hein. C'est vrai que depuis le début, La Rochelle s'appuie sur une défense de fer, hein. C'est vrai qu'ils ont des hommes solides, ils ont une défense qui circule beaucoup, qui monte fort, qui fait tomber très rapidement. La seule stratégie au jour d'aujourd'hui, c'est de taper au pied, de le faire reculer. On a vu en plus un Brice Dulin qui, il me semble, n'a pas trouvé une touche, a été un peu maladroit sur une réception de ballon aérien. C'est peut-être la bonne journée en tout cas pour Clermont.
Pourtant, on sait qu'il est précieux.
Hein. Ah, c'est un des meilleurs
sous les ballons hauts. Ouais, complètement. Complètement. Alors après, est-ce que la stratégie de l'hiver qui a fonctionné pour Pau, pour Bordeaux-Bègles, pour Lyon, de jouer au pied sans cesse pour harceler ce troisième rideau Rochelet, est-ce que ça marche au printemps, Julien, aussi? Parce que là, les conditions sont vraiment idéales. Hein.
Enfin, c'est une équipe qui est en reconstruction comme Clermont. C'est vrai que de maintenir sous pression cette équipe Rochelet dans son camp, ça peut être que bénéfique parce que toutes les pénalités seront tentables et on se met pas trop en danger. Donc, mais bon, on sent quand même qu'il n'y a pas une grande, on va dire, animation de l'attaque de Clermont. Hein. C'est,
ça rend d'ailleurs, Urios a reproché à ses trois quarts cette semaine de ne pas être à la hauteur. Hein,
bah, de ce qu'on voit pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement, ça reste fixe. C'est un peu le désastre au niveau pour ce numéro 9 qui du coup doit alterner à gauche, à droite, mais il n'y a pas vraiment de mise en danger.
Mais quand on voit les avants font le job, ils viennent de faire le job en mêlée et ils viennent de récolter la pénalité sur introduction maritime. Il y aura peut-être l'ouverture du score dans quelques instants d'Anthony Bello. Il est à 40 mètres face au perche. 0-0 pour l'instant à la 6e.
Très bien. Le foot, évidemment. On n'est pas très loin de Clermont. On est à Saint-Etienne. À Geoffroy Guichard avec Edouard G pour ce match entre Saint-Etienne et Metz. Match évidemment de haut de tableau, match très important pour les Messins notamment. Ouais,
match
Edouard.
Très important pour les Messins qui ont le challenge de coller, voire de dépasser Bordeaux. Et puis pour Saint-Etienne, le maintien n'est pas assuré, mais en tout cas il est sécurisé désormais avec ses 42 points. Donc maintenant c'est des petits challenges qu'ont les hommes de Laurent Batelet. 0-0 pour le moment, 5 minutes de jeu, et la première grosse action elle était pour Mathieu Cafaro qui a buté sur Oukidja, son tir croisé qui était trop sur le gardien de but Moselan. Et là attention, on va voir ce coup franc rapidement joué par les Messins, mais finalement récupéré par la défense stéphanoise qui pour l'instant, même si à l'instant ils perdent le ballon sur un faux rebond, le ballon qui va peut-être revenir, pour l'instant les Verts qui font une entame parfaite dans le jeu, qui monopolise le ballon, même si bien évidemment il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une action assez intéressante. Non, ça va aller directement en 6 mètres pour Gauthier Larsonneur et pouvoir dégager. Bientôt 6 minutes de jeu dans un stade presque plein. On a dépassé les 32 000 personnes, donc c'est le record de cette année en Ligue 2 qui est dépassé. On va pas atteindre le record de Lens en 2019 en Ligue 2, mais on n'en est pas loin. 32 000 personnes et toujours 0-0.
Voilà, magnifique public stéphanois qui vient encourager ses joueurs qui se sont remis la tête à l'endroit depuis plusieurs semaines maintenant, après un début de saison calamiteux et une saison dernière qu'il avait été également. Tout va mieux pour la Saint-Etienne, qu'on espère évidemment revoir au plus haut niveau très rapidement. Les Messins, ce sera peut-être pour la saison prochaine. On rappelle que Metz était avant le coup d'envoi de ce match 3e de Ligue 2 avec un point de retard sur Bordeaux, donc avec 56 points pour Bordeaux, 55 pour Metz. 15h07, retour à Marcel de Flandre, toujours 0-0. Romain Asselin, le score n'a pas été ouvert encore. Hein.
Non, la pénalité pourtant était largement dans les cordes d'Anthony Bello, mais c'est passé à gauche des pertes de La Rochelle. On en reste à 0-0. Ouais, grosse occasion manquée là par Clermont, mais ça revient dans les 22 mètres de La Rochelle avec une nouvelle pénalité sifflée par Monsieur Marbro. Et là, on voit, Julien, sur cette séquence que, en tout cas, on sent que les trois quarts ont été piqués quand même par Christopher Rios cette semaine.
Ah, effectivement, un mouvement offensif très intéressant. Ils ont tenu le ballon, ils ont réussi à balayer le terrain. C'est plutôt la défense de La Rochelle qui est un peu serrée pour moi, qui a du mal à monter, notamment sur les extérieurs. Donc ils arrivent à toucher. Et quand on sait les qualités, notamment avec Raka sur les ailes, ils ont quand même des qualités pour breaker ces lignes défensives. Mais ils ont tenu le ballon, ils ont été patients, ils sont remontés, il me semble, de leurs 40 mètres pour arriver dans les 22, pénalité. Donc ça peut être intéressant. Ils ont fait quoi comme choix? Ils prennent la touche ou
non, ils vont prendre les points. Ils vont prendre les points. Il est en position, à 22 mètres, Anthony Bello, il va reculer un petit peu, il est désaxé, légèrement excentré à gauche des poteaux Rochelet, mais celle-ci quand même. Alors il n'y a pas de vent, les conditions sont vraiment idéales.
Ce qui est rare à La Rochelle.
Tu as tout à fait raison. Généralement, t'as quand même un vent tourbillonnant. Là, pour le coup, non, c'est pas le cas. Deuxième tentative pour Anthony Bello. 8e minute de jeu, 0-0 pour l'instant. Il a loupé la première. Il y a 3 minutes, il était face au perche à 40 mètres. Celle-ci est en position, on va dire, intermédiaire. 22 mètres des poteaux pour Anthony Bello. Il va falloir qu'il la passe hein, pour se mettre en confiance. L'ouvreur de l'ASM qui enchaîne hein, à la place de Jules Plisson. Déjà 7e titularisation de suite pour Anthony Bello. Plisson sur le banc. L'ancien Rochelet qui avait joué un bien vilain tour. Souviens-toi, Julien, à l'aller au Rochelet avec un match qui avait été référent. Oh, il la rate oh, le geste d'énervement d'Anthony Bello qui vient taper au pied dans son tee. Oh, il est pas content. Julien,
alors, encore un échec. Vraiment, trouver un autre buteur ou en tout cas revoir les plans de Christophe Furios, parce que très clairement hein, on voit dès qu'il rentre dans le camp adverse, ouais, c'est pour prendre les points par le pied. Et voilà. Mais aussi Gomez du côté de La Rochelle, hein, on a vu hein, cette attaque part d'une perte de balle encore une fois hein, sur un jeu de pied.
Et on a vu une vue du banc Clermont.
C'est ce que j'allais te dire, le diffuseur
Jules Bisson, ancien de La Rochelle. Ça n'avait pas été un passage particulièrement réussi, hein, Romain. Hein.
Je dirais pas ça. Franchement, pendant un an et demi, c'était franchement très costaud. Le problème, c'est que Jules a enchaîné les pépins, notamment aux adducteurs, et que derrière, il est passé derrière West. Mais alors, définitivement, il a perdu la confiance d'Ogara. Effectivement, c'était un chemin de croix une fois là. C'était avant la finale en fait de Champions Cup 2021, perdu sur la pelouse de Toulouse. Perdu face à Toulouse. C'était à Twickenham, me semble. Effectivement, il rentrait plus dans les plans et ça avait été compliqué. Il avait joué un vilain tour au Rochelet.
L'ouverture du score par Georges Mikotadze, le plus lyonnais des Messins, qui bien évidemment est sifflé parce qu'il marque. L'ouverture du score à la 10e minute sur cette balle derrière la défense stéphanoise, qui était un petit peu au supplice depuis 2 minutes. Il y avait une mauvaise relance de Fomba, notamment Girondon, qui a mal aligné avec Seydou Sow, et derrière ça offre au meilleur buteur de Ligue 2 et de l'équipe de Metz donc cette ouverture du score avec ce tir croisé du gauche qui ne laisse aucune chance à Gauthier Larsonneur, 10 minutes de jeu et donc Georges Mikotadze, un petit jeune né à Gerland, formé à l'OL mais qui ensuite fait sa carrière notamment à Metz et qui éclot cette année.
Les Stéphanois le savent, qu'il est lyonnais lui.
Ouais, mais il n'était pas sifflé jusqu'à présent. Ça me faisait un petit peu bizarre de voir un Lyonnais sur la pelouse qui n'était pas sifflé. Et ben du coup, il a eu sa bronca à double dose puisqu'il est buteur et puisqu'il est lyonnais sur le coup. Et donc 1-0 pour Metz, 10 minutes de jeu.
Ok, Edouard, tout à l'heure. Donc Metz qui ferait une très belle opération évidemment s'il venait s'imposer à Geoffroy Guichard et qui reprendrait la place de deuxième au classement.
Aïe, 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 Dulin qui prend tous les risques là sur cette relance dans ses 22 mètres, la relance du parking avec ce ballon un petit peu balancé n'importe comment qui heurte le poteau gauche de son embut. Et derrière, La Rochelle s'en sort très très bien, hein, Julien, sur ce coup-là. Là, franchement, il a joué la roulette russe un peu, Brice Dulin.
Ouais, Brice, mais pas vraiment de choix. Hein. On a vu Barak qui vient vraiment très bien chasser, un jeu au pied qui a été très bien amené. Et malheureusement, j'ai l'impression que rien n'est fait pour mettre en confiance aujourd'hui Brice Dulin. C'est compliqué pour l'instant, ils n'ont pas le ballon, les Rochelais, ils font que défendre. Ils ont déjà causé 2 pénalités, ça, c'est compliqué ce début de match.
Mais 0-0 pour l'instant, ouais, puisqu'Anthony Bello a raté ses 2 tentatives.
Ils se font bouger pour l'instant, les Rochelais, sur leur pelouse de Flandre, par cette équipe de Clermont qui n'a plus grand chose à gagner dans ce championnat, mis à part une 8e place qualificative pour la championne.
Et 2-2!
Et de deux.
Et de deux. 12e minute. C'est Kouaho qui vient marquer avec une boulette de Gauthier Larsonneur. Ce tir, il est des 20 mètres. Il lui passe sous le corps une nouvelle fois sur la relance des Verts qui se font prendre le ballon. C'est Bouchouari là qui s'est fait prendre le ballon. Et derrière, eh bien, les hommes de l'Aslo Bologna ont pu s'organiser de bien belle manière. Et voilà. En 12 minutes, 10e et 11e et 30 secondes, les Messins qui font le break 1-0 et 2-0. Et donc le public de Geoffroy Guichard qui tout d'un coup s'éteint. 2-0 donc pour Metz en 12 minutes.
Hein, ça casse l'ambiance.
Ah, ça casse l'ambiance complet.
Bon, allez, à tout à l'heure, Edouard. Il est 15h12 sur RMC. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ces deux matchs. Donc 2-0 pour Metz sur la pelouse de Saint-Etienne et 0-0 entre La Rochelle et Clermont après 13 minutes de jeu. Le basket, est-ce que ça a repris? Je ne sais pas si Arnaud Valadon est de retour. Non, pas encore. Non, il reviendra tout à l'heure pour la deuxième mi-temps entre Basketland et l'ASVEL. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h16 sur RMC, 3 directs en cours du foot avec ce match entre Saint-Etienne et Metz. Et pour l'instant, les Verts ne sont pas au mieux. Geoffroy Guichard, après 16 minutes, ils sont menés 2-0 par Metz. Le rugby avec l'ouverture du score et un premier essai signé La Rochelle, Romain Asselin.
Trop puissant, ces avant-Rochelais qui font ce qu'ils veulent quand il s'agit de démonter le dernier rideau tout proche de la ligne adverse. Et c'est Joël Sclavy qui vient marquer tout en puissance le premier essai de ce match. 5-0 pour La Rochelle, 18e minute de jeu, Julien. Joël Sclavy, c'est un serial killer là au niveau des essais en ce moment. On rappelle qu'il est pilier. Hein. Il est son 6e essai depuis le début de l'année.
Alors, en même temps, il alterne la puissance et explosivité. C'est vrai que c'est un joueur qui est intéressant, qui a ce statut de remplaçant, mais dès qu'il rentre sur le terrain, c'est vraiment pour faire la différence. On l'a vu, hein, gauche-droite. Et voilà, aujourd'hui, il le montre. C'est vrai que La Rochelle s'appuie un peu sur son point fort de depuis quelques années. Notamment ce groupé pénétrant, c'est très bien amené et très bien réalisé.
Allez messieurs, on part pour Enghien-les-Bains, c'est l'heure du quintet. Dimitri Blanc-L'Œil est à Enghien pour nous faire vivre ce quintet. Salut Dimitri.
Exactement, salut Christophe, bonjour à tous. Il reste un tour de piste à parcourir, c'est une bien belle épreuve puisque c'est le prix de l'Atlantique, c'est un groupe 1, c'est ce qu'on a de mieux chez nous et notamment chez les trotteurs avec les concurrents qui sont maintenant à 1000 mètres de l'arrivée. En tête de course, c'est le deuxième favori, Onek, le 4 qui a pris le commandement, deuxième position pour le 8 à l'extérieur, étonnant, c'est le meilleur trotteur en France. Le meilleur trotteur peut-être mondial qui vient tout à l'extérieur et qui vient justement attaquer Onek. En troisième position, c'est le 3 Frisbee Dame qui emmène dans son sillage actuellement la SM Road 2B qui est bien placé côté corne. Mais il y a un match en tête de course entre Étonnant et Onek, le numéro 8 qui a l'avantage. Ça y est, Étonnant qui a pris tête et corde alors qu'il reste maintenant 700 mètres à parcourir. Il a commencé à faire son effort et effectivement derrière, c'est un petit peu de mal à suivre. Évidemment, hein, quand on est le meilleur, on va devant et pour l'instant, il prend ses responsabilités, Anthony Barrier, et il va en tête de course alors que nous sommes dans le dernier tournant. Il reste 600 mètres à parcourir. L'avantage avec le numéro 8 Étonnant, deuxième position avec le 4 Onek à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des attaques? Non, personne ne peut revenir actuellement avec Frisbee Dam, qui a bon parcours côté corps, le numéro 3 Emerald de Beto Gallo, le numéro 1, alors que nous sommes dans la dernière ligne droite. Il reste maintenant environ 380 mètres à parcourir. L'avantage pour Étonnant, le numéro 8, deuxième position pour le 4 Onek, alors qu'en pleine piste il y a le 13 Gone Boy qui a fait pas mal de terrain, de même que Orsi Dream qui est activé par Eric Raffin à l'extérieur qui vient attaquer les animateurs, même si Étonnant a toujours l'avantage. Il va falloir tenir pour Étonnant, 150 mètres à parcourir. Le 8 Étonnant qui est en tête, deuxième position pour Gone Boy qui vient juste toiser Onek peut-être pour la deuxième place, mais Étonnant est trop fort. Le meilleur cheval français vient de s'imposer dans ce prix de l'Atlantique. Il vient confirmer en ce moment qu'il est revenu en excellente forme et il l'a fait à la manière des forts. Il vient de remporter cette épreuve assez facilement en contrôlant les attaques. Victoire du numéro 8 dans ce prix de l'Atlantique, sur les pommes d'Enghien. La deuxième place pour un Go On Boy très bon, voilà le numéro 13 qui termine deuxième. Onek le 4 va se contenter de la troisième place, la quatrième place pour le 10 Orsi Dream devant le 2 Elvis Duvalon. Arrivée provisoire Christophe pour le quintet du jour, le 8 devant le 13, le 4, le 10 et le 2. À tout à l'heure pour les rapports définitifs et les rapports de ce quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri. Il est 15h20. Trois directs sont en cours cet après-midi dans l'intégral sport, du basket, du rugby et du foot. On va retrouver Arnaud Valadon. On avait quitté. Il était allé se restaurer, évidemment, à la mi-temps. C'est ça. Hein, quand on voit trop de matchs comme ça, il en est à 5 ou 6 depuis le début de la matinée. Arnaud Valadon, la deuxième mi-temps a débuté entre Basketland et l'ASVEL.
J'avais surtout soif et de l'eau, oui. Je précise. Ça démarrait depuis 4 minutes, Christophe, et toujours un avantage conséquent pour les tenantes du titre, les Landaises. Basketland qui mène 40 à 22, toujours une énorme panne d'adresse pour l'ASVEL. 9 sur 39 sous les yeux du président, du patron Tony Parker, qui doit se demander mais c'est pas possible, comment on n'arrive pas à mettre un seul panier. 18 points de retard pour l'ASVEL et Céline Dumère, qui joue à Basketland, est en train de faire un festival. Elle a mis un 3 points au buzzer de la mi-temps qui a fait énormément de mal aux Lyonnaises, et même là elle a provoqué une faute de Marine Johannes. Elle est encore là, elle a de la ressource, l'éternel Caps, et qui pour l'instant emmène bien Basketland vers un deuxième titre en Coupe de France de suite. 40-24, 5 minutes encore à jouer dans le troisième quart-temps.
Très bien, le foot, donc Saint-Etienne qui est mené 2 à 0 sur sa pelouse. Est-ce qu'on a vu une petite réaction des Verts, Edouard, depuis ce double coup du sort pour les Verts?
Oui, avec ces deux buts de Mikotadze à la 10e et de Kofi Kouaou, c'était à la 12e minute sur des pertes de balles de la défense. Mais on a resserré l'arrière-garde et surtout on est piqué au vif des côtés des Stéphanois. On a eu une énorme occasion avec Nkunku qui a bien lancé sur son côté. Il était trop excentré. Et du coup, il a fait un centre fuyant et ben, on était tout près de la réduction de l'écart puisque Ibrahim Wadji était sur la trajectoire. Mais il a manqué un petit crampon là pour vraiment s'opposer au ballon et surtout donner l'angle qui aurait permis à celui-ci d'aller au fond des filets. Donc on en reste à 2 à 0, mais c'est parti sur de bons rails au niveau du côté spectaculaire parce que ben, on voit les Verts qui, mine de rien, désormais sont certes au pied du mur, mais on sent qu'ils ont la possibilité de revenir au moins dans un premier temps dans ce match. 21 minutes de jeu et toujours 2 à 0, donc but de Mikotadze, plutôt 0-2 Mikotadze et Kofi Koao pour les Messins. Alors attention, avec un nouveau contre pour les Messins, avec ce ballon qui finalement va être enlevé par Gauthier Lorsener sur cette grande montée une nouvelle fois de Jalot sur le côté gauche, et un oubli de la défense. Là il faut vraiment régler tous ces problèmes, que ce soit au milieu ou la défense, parce que là ça avait promis, ça avait donné un grand boulevard à Jalot, et puis finalement heureusement qu'il a fait ce crochet de trop pour au final aller buté sur Gauthier Lorsener. On était tout près du 3-0, mais on en reste à 2-0 pour Metz à la 22e.
C'est bien parti quand même pour les Lorrains dans ce match. 22 minutes, déjà 2-0 pour les Messins. Le rugby, La Rochelle s'est fait un peu bouger en début de match, Romain Asselin, Julien Brugnot, mais ça va mieux avec donc cet essai transformé par les champions d'Europe.
Par Antoine Asteuil qui porte le score donc à 7-0, 21 minutes de jeu, première pause fraîcheur dans ce match au Waterbreak. Ça sent le printemps, ça, messieurs, forcément. Alors que ouais, ça va beaucoup mieux pour La Rochelle qui multiplie, hein, Julien, les temps de jeu, les offensifs, ça manque un peu de précision. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Ronan O'Gara a tapé du pied violemment là, juste au-dessus de moi dans sa loge. Ça a fait trembler la tribune de presse.
Attention, parce qu'il se met facilement en colère. Hein, donc ouais. Attention à toi.
C'est ça.
Ouais, pour revenir sur le jeu, c'est avec La Rochelle, on voit La Rochelle, Astoy, hein, leur demi d'ouverture, qui prend un peu plus le jeu à son compte, qui pèse un petit peu plus. Il est moins distributeur, il est plus. Il impacte, notamment avec ce jeu au pied tout à l'heure, juste au-dessus de la défense pour Brizulin qui a permis de breaker. Voilà, il faut qu'il prenne ses responsabilités.
Attention à Raka sur son couloir gauche qui va taper à suivre au pied. Pas forcément la bonne surface du pied là. Et ce ballon qui va directement en touche, ce sera un lancé pour La Rochelle à 20 mètres de son but. 7-0 pour l'instant pour les Maritimes, 23 minutes de jeu.
Avec grosse volonté hein, des Clermontois justement d'amener ce ballon sur l'aile de Raka, justement dans son défi face à Telly Thomas qui n'est pas le meilleur des défenseurs. Un excellent attaquant, mais pas le meilleur défenseur. Bon, pour l'instant, Raka a du mal un peu à contrôler. Hein. Il me semble qu'il y a une perte de balle sur un en avant et il a un peu de mal pour l'instant, mais attention dans le match, il va falloir vraiment cadenasser cette équipe et peut-être monter un peu plus fort du côté Rochelet.
Coup franc d'enjeu pour les Messins, Edouard.
Avec ce coup franc qui finalement va être fuyant et surtout va aller en corner. Ça va nous proposer le premier corner de la partie, 24 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Metz qui a une énorme occasion tout à l'heure. C'était plutôt par Camara, je vous ai parlé de Jalot, mais c'était Camara Mikotadze pour le corner avec une tentative de ciseau, mais il va y avoir une faute et une faute messine, et du coup alors attendez, est-ce qu'il y a un pénalty? Est-ce qu'il y a un pénalty? J'ai l'impression qu'il signalait une faute. J'ai l'impression qu'il y a un pénalty pour Metz. Oui,
ils
il y a
nous font
penalty.
Douter ces tchèques-là.
Ils nous font douter. Il me fait douter ce Nicolas Rainville parce qu'il indiquait certes la direction du point de pénalty, mais on voyait plus dans son geste la ligne des 5m50 pour un renvoi et sur une faute défensive stéphanoise. Mais alors, quelle faute a été sifflée sur le coup? En Ligue 2, nous n'avons pas la VAR, donc je n'ai pas de possibilité de vous dire quelle faute.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé,
mais je n'ai pas d'écran devant moi. Donc, mais en tout cas, il y a une faute et le pénalty va bien être.
Il y a un Messin qui s'écroule dans la surface, qui est bousculé par un défenseur stéphanois. Mais bon. Si tu siffles un péno là, t'en siffles 50 par match. Hein.
Ouais, parce qu'en plus, là, tout le monde était parti, même les Messins, quelque part, pour faire ceux-ci mettre. Mais bon, ça va promettre à la 25e pour peut-être, pourquoi pas, pour le meilleur buteur de Ligue 2, déjà buteur, ouvrir le score tout à l'heure à la 11e. Et le deuxième but pour lui, ça fait 3-0 en 25 minutes. Et voilà Metz qui désormais a totalement le match en main. 3-0, alors qu'il y a malheureusement quelques énergumènes qui vont aller sur la pelouse, mais ils sont vite arrêtés par les stadiers. Ça fait donc 3-0 en 25 minutes pour des Messins hyper efficaces. Ils ont profité des largesses défensives à la 10e et 12e minute par Mikotadze et Kofi Koao pour marquer 1 et 2 buts. Et puis là, une faute un petit peu difficile à voir, mais en tout cas Nicolas Rainville était près des acteurs et donc il a signifié le pénalty. Ça fait donc 3-0 à la 26e minute. Ça va être difficile pour les Verts de recoller.
C'est compliqué quand même. Hein. Ils ont les fesses rouges, les Stéphanois. Là, hein.
Ils sont plus vertes. Hein. Ils sont toutes vertes.
Ouais. Ils sont toutes vertes et toutes rouges. Un mélange. À tout à l'heure, Edouard. Donc pour les Stéphanois qui subissent une petite correction sur leur pelouse. Que va-t-il se passer ce soir à Lens? Oh, il y aura sûrement une belle ambiance à Bollaert. Évidemment, il y a toujours une belle ambiance pour les matchs du Racing Club de Lens qui reçoit un adversaire direct pour la la fin de saison et notamment pour cette deuxième ou troisième place du championnat qualificative pour la Ligue des Champions. Lens qui après sa défaite face au PSG eh bien doit une revanche à ses supporters ce soir face à Monaco.
Christophe, on va vivre...
oui,
le match qui ne va pas reprendre malheureusement. Qu'est-ce des énergumènes humaines qui descendent sur la pelouse.
Oh non.
Eh, si. Alors qu'on voit Gauthier Larsonneur qui parce que tout cela se passe côté Kop Nord et du coup tous les Stéphanois vont devant le Kop Nord pour éviter à des, tu peux le dire,
des abrutis, mais c'est toujours les mêmes depuis des années.
Ouais,
là,
c'est les mêmes qui d'ailleurs lundi soir à Grenoble ont failli faire c'est passé sous silence parce que les stadiers de Grenoble ont fait un travail formidable pour qu'ils ne sortent pas de leur tribune et le stade étant un stade moderne et bien
mais
conçu pour ça.
Mais comment on n'identifie pas ces énergumènes et on les bloque les jours de match, on les enferme, je sais pas, quelque part.
Et le match est arrêté. Hein, le match est arrêté à la 27e minute.
Non mais c'est dingue. Quoi.
C'est dingue. Là franchement, je pensais.
Pourquoi? Parce que Saint-Étienne mené 3-0, ça leur plaît pas.
Ça, ça leur plaît pas. Voilà, c'est les voilà.
Alors tu vas plus dans les stades hein, si ça te plaît.
Franchement, on en avait passé une belle après-midi. J'allais dire du bien des supporters stéphanois après en avoir dit vraiment du mal l'année dernière et depuis deux ans parce qu'ils nous en font baver et en termes de violence, on est même allé devant les tribunaux. Hein. Il y a eu une grande des supporters qui ont eu alors pas de la prison, mais des peines aménagées. Donc tout cela. Ces 11 supporters ne sont pas ici parce qu'ils doivent pointer les jours de match, mais malheureusement il y en a d'autres. Alors il y avait une si j'ai le temps de vous conter un petit peu cette anecdote, on va dire, c'est qu'il y avait un moment donné, vous savez, la sanction au départ pour les Verts c'était 6 matchs
et
3 points en moins, ouais. Mais il y avait 3 points avec sursis,
ouais.
Et en fait, il y avait une idée, une rumeur qui courait que des supporters voulaient aller au bout de leur action et faire tomber ces 3 points une fois que le maintien allait être un petit peu acquis, on va dire, de façon confortable. Et pourquoi pas pour faire tomber ces points, pour aller au bout de leur bêtise, j'allais dire connerie.
Pour les faire
désolé.
Descendre en national ?
Non, mais une fois que le maintien était fait, en fait, d'accord. Ce qui est un peu le cas, eh bien de refaire les actions qu'ils ont faites l'année dernière, ce qui ferait tomber ce fameux sursis de 2-3 points, et donc ils enlèveraient une nouvelle fois 3 points pour aller au bout de leur bêtise de l'année dernière. C'était la rumeur qui court, et j'ai bien l'impression que ce que j'ai vu lundi à Grenoble et ce que je vois cet après-midi ici, où le match est arrêté hein, depuis la 27e minute, et tous les 22 acteurs sont désormais dans les vestiaires, monsieur Nicolas Rainville, et qui a ramené tout le monde à la raison, et donc des supporters qui ont décidé d'aller sur le terrain. Alors donc ils ont été tous ramenés hein, par les stadiers dans leur coin là-bas au pied du COP des 200 supporters messins, et donc voilà le crime de cet après-midi à leurs yeux, c'est que Metz mène 3-0 au bout de 26 minutes de jeu. Franchement, c'est désespérant.
Donc on rappelle, Edouard, des supporters du COP
Nord,
hein, Nord sortis, qui ouais. Est donc ont envahi la pelouse.
Mais non, ils n'ont pas envahi, ils sont juste ouais, descendus.
Ça a été assez bref quand même.
Ça a été assez bref parce que tous les joueurs de Saint-Etienne sont allés vers ce côté Nord pour leur demander de se calmer. Et c'est une bande hein, qui est dans un coin, le coin tout en bas à gauche. Ils sont tous de noir vêtus, bien évidemment, ils ont pour la plupart des cagoules. Ils essayent d'être à l'abri
des
caméras, mais ouais. Comme c'était vu dans le procès que j'ai suivi en novembre, on va tous les repérer, tous ces gens-là. Donc là, ils sont tous revenus hein, dans leur bloc. Mais
ouais.
le monsieur Nicolas Rainville a pris la sage décision de tout ramener les 22 acteurs en
ouais. Alors vestiaire. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? L'arbitre va voir si tout le monde se calme et ensuite autorisera peut-être la reprise du jeu, mais ce sera pas tout de suite.
Alors, hein, dans un premier temps, ça se passe dans l'arbitre, dans ouais. le vestiaire de l'arbitre avec le, ouais. le délégué.
Après, d'un autre côté, si Saint-Étienne a match perdu, ils étaient déjà menés 3-0. Hein, donc,
oui, mais il peut y avoir aussi ces 3 points. Hein, souvenez-vous ces 3 points avec sursis.
Avec sursis.
Ce que je vous racontais, qu'éventuellement des supporters voulaient que ce ouais. sursis tombe une d'accord. nouvelle fois. Voilà.
Ok, bon, eh ben, écoute.
Match arrêté depuis 4 minutes désormais.
Bah, tu nous appelles. Pour l'instant, tout le monde reste dans les tribunes en attendant que ça reprenne. Et peut-être que les quelques énergumènes, eux, espèrent que ça ne reprendra pas. On verra ça dans quelques minutes. 15h31, le rugby, ça va, ça se passe bien chez Marcel, Romain. Il n'y a pas de ce genre d'énergumènes. Vous n'avez pas ça à La Rochelle. Vous n'avez pas ça en stock.
On n'a pas ça sur les terrains de rugby.
Ouais, non.
Tout simplement. 30e minute de jeu, 7-0 pour La Rochelle après un essai de Sclavier. Là, Julien, c'est vrai que le jeu est un peu haché. Hein, par les fautes de main, des imprécisions, c'est compliqué d'envoyer du rugby. Pourtant, les conditions sont vraiment idéales.
Ouais, quelques fautes de discipline et quelques fautes de main. C'est vrai que c'est peut-être la chaleur, la transpiration au niveau des mains qui fait que. Mais malheureusement, ça entache un peu des volontés des deux équipes hein, d'envoyer du jeu. Écoutez, on espère qu'ils vont réguler ça et puis on va retrouver un joli match parce que les deux équipes, franchement, ne sont pas venues pour fermer le jeu, bien au contraire.
La Rochelle à l'attaque là avec cette séquence dans les 40 mètres de l'ASM au sol, ça fait rail, un ballon récupéré par les Clermontois, c'est bien joué, on va jouer au pied derrière avec Moala qui va envoyer une key et ce sera Dylan Leeds qui derrière, c'était Fritz Lee hein, qui avait joué au pied finalement, Dylan Leeds qui relance, attention il faut du soutien, il ne faut pas se couper du soutien côté Rochelais finalement, ils vont réussir à le conserver ce ballon, Jules Lebaille avec un temps de jeu supplémentaire, on est dans les 40 mètres de La Rochelle mène 7-0, on vient de franchir la demi-heure de jeu à De Flandre.
À tout à l'heure Romain, le basket finale de la Coupe de France féminine, ça se passe à Bercy avec Arnaud Valadon, on est-on dans le match?
La fin du troisième quart-temps, 40 secondes encore à jouer, toujours cette avance confortable de Basketland, 52-35 face à l'ASVEL qui revient un peu, mais là il y a trop de retard, on rappelle, après un quart-temps, il y avait 8-3 seulement dans cette partie, Basketland a réussi à mettre les paniers, ce qui est quand même essentiel dans le basket, et l'ASVEL malgré toutes ses internationales, beaucoup moins, encore un quart-temps à jouer, là il reste encore 20 secondes dans ce troisième, et plus 17 pour Basketland, 52-35.
Ah, il est 15h30. Vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport revient dans un instant. Je vous rappelle que le match entre Saint-Etienne et Metz a été interrompu il y a quelques minutes après que quelques supporters, peut-on les appeler comme ça, soient descendus sur la pelouse. Ils sont rentrés dans leur travée depuis. Mais l'arbitre a décidé de renvoyer tout le monde au vestiaire. On verra si ça reprend dans un instant. Il s'est passé des choses à La Rochelle, Romain. J'ai pas vu là. Ah oui, ça nous va laisser.
Quel petit exploit personnel, grand exploit personnel de Paul Boudéan qui vient déchirer 2-3 plaquages qui résistent. Avec voilà, son gabarit et qui fait des merveilles. Il vient aplatir sur les plateaux le deuxième essai de La Rochelle, 12-0 avant la transformation, 32e minute. La Rochelle fait un premier break dans ce match.
Un beau break là quand même, hein, ça y est là.
Ah, effectivement, mais c'est vrai qu'en même temps, toutes les actions un peu annihilées de Clermont, ben voilà, ça va donner un peu de confiance à ces Rochelais. C'est vrai qu'on voit beaucoup les avants, notamment Paul Boudéan, qui est très bon en attaque. Là, il y a eu un joli cadrage débordement. Et c'est vrai que là, il s'offre un essai magnifique.
Ah oui, mais la défense clermontoise côté droit était quand même un peu aux abonnés absents là.
Ah, perte de balle, mauvaise réorganisation, automatiquement, ils l'ont exploité. Et quand on a des joueurs de cette qualité, c'est vrai que ça va, Adam.
Ça va Adam, et ça permet à La Rochelle de mener 12-0 après 32 minutes. Il est 15h34, on revient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h37 sur RMC, l'intégral sport, le foot, le rugby et le basket. Ça reprend, bah oui, ça reprend Saint-Etienne, Edouard.
Et oui, après une petite dizaine de minutes d'arrêt.
Les esprits, et puis voilà.
Calmer les esprits. 26 minutes, on reprend la 26e. Hein, c'était au moment où le match a été arrêté à 3-0, donc sur un doublé de Georges Mikotadze et le but à la 12e minute de Kofi Kouaou. Et je vous parle de Georges Mikotadze, je vous parlais tout à l'heure, mais de façon humoristique. Hein, parce que j'aime bien quand je parle de l'opposition rester dans ce côté chambrage, donc le plus lyonnais des Messins qui avait marqué le premier but, qui avait été copieusement sifflé. Eh bien, visiblement, c'est au moment où il a célébré son deuxième but, son penalty avec les doigts, il a fait un 69. Vous voyez, en mimant, voilà. Alors,
ça a
halluciné un peu un certain nombre. Alors, il y a cette donnée-là qui est importante, mais vu qu'il a marqué côté sud et que les problèmes sont nés côté nord, il s'est passé aussi une chose, c'est que j'ai vu après des stadiers évacuer un supporter de Metz qui avait un maillot hors du parquage messin, qui avait un maillot de Metz et de Mikotadze. Donc lui, il a dû aussi peut-être un petit peu chambrer. Il était à quelques mètres de tout ce côté, on va dire, supporter qui est tout habillé en noir. Hein. Donc ils viennent supporter leur équipe, les Verts, tout en noir. Mais bon, c'est une mode. Et donc c'est peut-être ça aussi qui a énervé un certain nombre d'énergumènes. Ils sont sortis, allez, quelques secondes de la tribune. Les stadiers ont réussi à les faire rentrer. À noter qu'il n'y a pas de compagnie de CRS hein, ou des gendarmes, des policiers qui sont autour pour aider au cas de
de troupes parce que c'est.
Il y a plus de derby entre Saint-Etienne et Lyon, donc les supporters trouvent le moyen par
voilà,
des
de s'énerver parce de... que le... ouais. Voilà, ils cassent un petit peu l'ambiance parce que c'est vrai qu'il y avait une très très bonne ambiance avec ces 32 000 personnes. Alors je veux bien que sportivement parlant, ça se passe mal pour les supporters et pour les Verts avec ce 3-0, mais de là à faire ça, alors il y a pas mort d'homme, hein, bien évidemment, on est loin de tout ce qu'on a connu ici même, mais on sent que c'est assez rapidement explosif. 3-0 donc pour Metz et nous en sommes à la 28e minute après une petite dizaine de minutes d'arrêt.
Ok Edouard, le rugby, on approche de la mi-temps, Romain, toujours un bel avantage pour la Rochelle. Hein.
38e minute, encore 2 minutes dans cette première période, 14-0, deux essais signés Sclavier à la 17e et Paul Boudéan à la 32e, ils étaient tout près d'un 3e essai, là les Rochelais avec Piquet qui a foncé tout droit, il a mangé un 5 contre 2 sur les extérieurs, il s'est fait un peu redresser les bretelles, mais on sent que ça peut finir en pop-corn cette affaire, hein. Ils sont clairement au-dessus les Rochelais là dans le jeu de trois quarts, dans le jeu de mouvement. 38e minute, 14-0.
Ok, le basket, la finale de la Coupe de France féminine, Arnaud Valadon, où en est-on dans ce match entre Basketland et l'Asvel?
Avec de moins en moins de suspense dans cette partie, 7 minutes 40 encore à jouer et plus 18 pour Basketland, 57-39. Elle se dirige tranquillement, les Landaises, vers une deuxième Coupe de France de suite.
Ça, il y avait pas de penalty là, Edouard. Non, c'était en dehors de la surface, hein, la faute commise par les Spurs.
Oui. De lecture sur le coup, mais ouais. Vu le penalty qu'on a vu tout à l'heure, le troisième
oui,
but de Metz.
Il aurait pu,
il aurait pu, mais bon, en tout cas, il y a pas de penalty. Ça a provoqué une petite bronca, mais rien de plus. 29 minutes de jeu, un peu de retard bien évidemment, mais toujours 3-0 pour Metz.
Très bien, il a failli parler tout à l'heure et puis finalement on est passé à autre chose, mais il est toujours là, il est resté en place évidemment, Jean Baumel, pour évoquer le match entre Lens et Monaco qui sera la grande affiche de la soirée en Ligue 1. Salut Jean.
Salut Christophe, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Bon, voilà, une belle affiche ce soir, Lens-Monaco. Il faut se remettre en place après cette défaite la semaine dernière qui a fait s'envoler les rêves que certains avaient de voir Lens remporter le titre de champion. Il n'y a peut-être plus le titre, mais maintenant il faut aller chercher cette place en Ligue des Champions et ça tombe bien parce que c'est face à un adversaire direct ce soir que ça joue. Hein.
Ouais, exactement, face à Monaco dans un bolard, tu l'as dit, hein, tu le sentais. Bon, tu prenais pas de risque, hein, en disant que ça sera guichet fermé. Oui. 23e fois de suite, c'est quand même assez hallucinant, hein, faut le souligner parce que c'est.
T'es battu pour l'instant par Romain Asselin.
On est à 79, mais... nous. Hein, c'est vrai. Ouais. Combien la capacité?
16 000.
Allez, j'y vais. 38 223. Et encore, pour la saison prochaine, on en reparlera plus tard, mais t'imagines qu'il y a une liste d'attente, Christophe, de 15 000 abonnés.
Ah ouais, c'est dingue.
Un truc de fou.
Et en plus, il y aura peut-être la Ligue des Champions. Donc là,
oui, bah écoute, c'est vrai que, d'ailleurs, on va écouter dans quelques instants Francaise, mais c'est vrai que, bon, le titre, voilà. Il y avait cette petite idée de faire un coup à Paris la semaine dernière. Après, ils n'ont pas été ridicules, hein, 10 contre 11. C'est là aussi, c'est rassurant pour la suite parce que là, il y a Monaco, il y aura Toulouse, ensuite il y aura Marseille. Enfin, voilà, il y a de grosses échéances avant la fin de ces saisons pour, voilà, une place européenne. Lens, il sera dans le top 5, je pense. Mais voilà, bon, tout le monde a envie d'avoir la Ligue des Champions et voilà, il y a de la concurrence entre Monaco, Lens et l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que c'est un sujet, qui revient souvent. On leur parle de titres, on leur parle de Ligue des Champions. J'ai posé la question.
Le troisième essai Rochelet, Teddy Thomas, servi sur un plateau par un jeu au pied à suivre de Brice Dulin, parfaitement dosé. Et Teddy Thomas qui est parvenu sur son aile à faire la différence. Et il est le premier dans l'embut. Troisième essai, ça fait 19-0 avant la transformation.
Ouais, ça part d'une bonne lecture, hein, de Brice Dulin qui voit l'arrière Clermontois à monter dans la ligne pour défendre et automatiquement l'espace derrière libre. Un petit jeu au pied bien dosé. Puis après, quand on connaît la pointe de vitesse de Teddy Thomas, il fait la différence.
Son sixième essai de la saison pour Teddy
Thomas. Bien. Bon, il n'y a plus beaucoup de suspense dans ce match entre La Rochelle et Clermont. 19-0 et sans doute 21-0 dans quelques instants avec la transformation. Jean Baumel nous parlait donc de ce match entre Lens et Monaco qui aura lieu ce soir avec cette ambition affichée maintenant de se qualifier pour la Ligue des Champions.
Alors, c'est vrai que, bon, ils le disent, même Francaise l'a dit il y a quelques semaines, oui, on va jouer une place européenne, mais c'est vrai qu'on, toutes les semaines, on en fonction des résultats, la semaine dernière, donc, on parlait de titres, là, est-ce qu'ils parlent de Ligue des Champions dans le vestiaire durant la semaine? Eh bien, on va écouter la réponse du coach lensois.
Si les joueurs se disaient toutes les 5 minutes. Ligue des Champions, Coupe d'Europe, titre, 5e place, 4e, on n'avance pas avec ça, on se pollue. Donc moi ce qui m'intéresse et ce qui les intéresse, voilà, c'est qu'on on soit en mesure de jouer notre foot, de tracer notre chemin, de faire du mieux possible. Quand vous voyez le nombre de points des équipes de tête, c'est un peu hors norme cette saison. Ce qui est sûr, c'est que moi, je veux que mon équipe progresse, mais les autres, ils ont le droit de progresser aussi.
Il nous parle de pollution, de ces objectifs affichés par les médias notamment et par les supporters. Ça a pollué peut-être un peu la tête des joueurs, Jean ?
Bah écoute, on n'a pas l'impression, mais c'est vrai que bon, c'est le jeu aussi de la fin de saison, parce qu'il y a des matchs importants. La semaine dernière, c'était Paris, là c'est Monaco. Comme je disais, dans deux journées, on aura un Lens Marseille dans 15 jours à 21h samedi. On aura l'occasion d'en reparler, Christophe. Mais voilà, il y aura que des matchs en jeu d'ici la fin de saison, et voilà, donc il s'y attend. Il sait très bien que comment ça fonctionne, Francaise. Mais c'est vrai que bon, voilà, ils ont pas, comme il dit, ils vont pas passer à ça tous sans arrêt. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus de marge de manœuvre. Ce qui est fou, c'est qu'avec 63 points, t'imagines que Lens, bah rien qu'à domicile, c'est 13 victoires en 15 matchs. Tu fais une série incroyable cette saison, tu n'as que 4 défaites. Et puis tu peux encore finir 5e. Voilà, alors ce ne serait pas catastrophique de finir 5e, mais ce sera la Conférence League. Mais quand tu as été 22 fois sur le podium sur 32 journées, bah, tu pourrais avoir des regrets. Donc c'est vrai que côté Lensois, bah voilà, on se méfie un petit peu de ne pas trop annoncer des choses. Comme on vise avec des champions pour pas trop décevoir non plus. Voilà, je pense qu'il marche un peu sur des œufs, ce qui se comprend également.
Très bien. Et puis de l'autre côté, on veut aussi la Ligue des Champions. Côté monégasque, les monégasques qui sont sur une belle lancée aussi et qui sont à seulement 2 points de Lens. Donc attention à ne pas perdre ce soir. Merci Jean. On te retrouve tout à l'heure avec Jeannot. Le coup d'envoi de ce match sera donc à 20h. À quelle heure ? À 21h. 21h pour ce Lens Monaco. Merci Gibo. À tout à l'heure. Le rugby, donc c'est la mi-temps. Romain Asselin, bel et large avantage pour La Rochelle. Il y a quasiment plus de match, hein.
Ouais, t'as raison, 19-0, 3 essais, victoire déjà bonifiée sur le papier pour les Rochelais avec Sclavi qui a ouvert la marque à la 17e. Ensuite, 2 essais avant de rentrer au vestiaire, Paul Boudéan à la 32e, Teddy Thomas à la 39e. On en a vu, Julien, que dès que les Rochelais ont accéléré, ont arrêté les scories, derrière la défense de Clermont n'a rien pu faire.
Ouais, effectivement, puis Clermont malheureusement avait montré des intentions, ils ont été capables notamment pour aller chercher ces pénalités, bon, pas concrétisés, hein, on a vu tout à l'heure par leur numéro 10, leur buteur, mais malheureusement c'est vrai que trop de fautes de main, trop de pertes de balles dans les collisions qui ne permet pas de mettre leur jeu en place, et aujourd'hui malheureusement ils se comportent en victime rochelaise.
Ok, à tout à l'heure Romain pour la deuxième période, 19-0 donc pour les Rochelais avec cette équipe panachée. On rappelle que la Rochelle jouera une demi-finale de Champions Cup la semaine prochaine. Julien, tu reviens tout à l'heure pour la deuxième mi-temps ?
Avec grand plaisir.
Voilà, le basket, là on approche de la fin du match en nos baladons, et toujours un bel avantage pour les Landaises face aux diablesses de l'Asvel qui tombent sur un os aujourd'hui.
Au Lyon, pardon, on les appelle Lyon, en même temps. Voilà, Lyon, c'est logique. Ouais. Petit rapproché de l'Asvel féminin, mais il y a toujours 13 points de retard à 5 minutes 20 de la fin de ce match, 59-46. En plus, les Landais sont sur la ligne des lancers francs pour 2 tentatives. Il y a encore une petite fenêtre. Éventuellement, on a vu Marine Johannes 11 points sonner un petit peu la révolte, mais toujours ses problèmes d'adresse. Et là, maintenant, il y a 14 points de retard puisque le premier lancer franc a été réussi par Harmon, l'américaine de Basketland. 5 minutes 20 encore à jouer. Et plus 15, 61-46 pour Basketland, club évidemment basé à Mont-de-Marsan.
Merci Arnaud. 15h47, Edouard, il est revenu, il joue les prolongations, Edouard.
Ah ouais,
parce qu'il y a eu 10 minutes d'interruption, donc du coup, le petit goûter qui était prévu là maintenant à 15h45, tu vas devoir attendre 10 minutes de plus. Hein.
Exactement. Réduction de l'écart. Réduction de l'écart de Nielsen Nkunku dans ce match qui peut devenir fou. 3-1 désormais sur ce long ballon de Fomba qui lobe la défense Messine. Et puis il est presque sur la ligne de sortie. Et bien il arrive à redresser la course du ballon et surtout de la tête à mettre ce ballon dans le but. Ouais, c'est vraiment un très très beau but sur ce long ballon, et de la tête il va se matcher le ballon au fond des filets. Ça fait donc 3-1. Le match est peut-être relancé. Ah, nous en sommes à la 37e minute.
Il a retrouvé le sourire, Edouard.
J'ai surtout retrouvé le sourire parce qu'il y a de l'ambiance et qu'il y a moins des qui créent des soucis et qui ont arrêté arrêter le match tout à l'heure et ça peut nous rendre le match totalement fou. 3
toi,
donc pour Metz.
T'as retrouvé le sourire. Il y en a un autre en revanche qui a le sourire un peu plus crispé, évidemment. Metz, c'est un peu c'est sa ville, c'est son club. Il rêve, il vibre depuis 40 ans bientôt maintenant. Pas encore.
Eh, si,
40. Si. Ah, ouais, je crois que c'est plus jeune que ça.
Je sais pas, Christophe.
François, comment ça va?
Ça va,
François,
Christophe.
Il est tendu. Il est arrivé en studio il y a 5-6 minutes, genre décontracté, tout allait bien.
C'est vrai.
Puis là,
le match est relancé, mais c'est ça qui est passionnant dans le football. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'on va suivre cette deuxième période avec intérêt, même s'il y a même la fin de la première période à suivre avec Edouard Gé dans un instant de cette 32e journée de Ligue 2. Il y aura de la Ligue 1 aussi dans l'intégral sport qui continue cet après-midi, puisqu'on suivra Auxerre-Lille, très important pour les deux équipes. Auxerre qui peut se rapprocher du maintien et Lille de l'Europe. La deuxième période de La Rochelle-Clermont top 14. Je te garde Julien Bruniaud, hein, t'es d'accord?
Ah bah, oui.
Pour la deuxième période à partir de 17h aussi.
Il a pas fait grand chose en première mi-temps.
De la 23e journée top 14. Et puis les finales de basket de la Coupe de France. Deux belles affiches, Basketland Asvel chez les dames, c'est la fin dans un instant. Et puis Monaco-Asvel chez les hommes. On suivra tout ça dans l'intégral sport.
Vous savez que François Pinet a des talents d'imitateur magnifiques.
Oui, mais c'est pas très.
Talent d'imitateur de Robert De Niro.
Voilà,
mais alors il faut le voir.
C'est plus visuel. Voilà, donc je vais pas le faire là. Merci de me lancer là-dessus.
Talking to me.
You talking to me?
C'est pas mal.
RMC Intégral Sport.